Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog. Surprise, la saison a beau être terminée pour les podcasts de la rédaction, nous avons quand même gardé un podcast, mais plutôt un spoilcast sous la main. Un spoilcast pour boucler vraiment la saison, un spoilcast sur The Last of Us Part 2, évidemment, que nous avons pu tous maintenant à la rédaction, quasiment tous. Hein, il y en a peut-être un ou deux qui résistent encore, comme Camille par exemple, qui l'attend toujours sur PC. On a à peu près tous essayé, on l'a à peu près tous terminé au passage, et on a estimé que c'était peut-être le moment de vous faire un podcast spécial sur le jeu, mais avec un ton, on va dire, un peu plus relâché, en sachant que les personnes qui vont écouter, donc, que vous soyez sur Gameblog à nous écouter ou nous regarder, que vous soyez sur Deezer, Spotify, iTunes ou autre, il n'y aura que du spoiler dans ce podcast, donc ne venez pas vous plaindre si on vous a spoilé quoi que ce soit, on vous a prévenu là tout de suite, maintenant, donc c'est réglé, comme ça, au moins, vous êtes au courant, merci, à plus. Thomas est avec nous, évidemment, c'est lui qui a réalisé le test pour nous, ah bon, qui lui a mis ce honteux 10 sur 10,
c'est vrai.
Voilà, qualifié de honteux.
Que personne n'a repris, évidemment,
par
la rédaction.
Par Metacritic, voilà. Et Romain aussi est avec nous.
Bonsoir.
Romain qui lui aussi a mis 10 sur 10, un honteux 10 sur 10, évidemment, et moi aussi j'ai mis 10 sur 10, évidemment, parce que c'était honteux.
Et bien vous êtes tous dévendus, voilà.
Exactement, nous sommes tous absolument vendus et absolument dans la mouvance de tout ce que The Last of Us Part 2 a voulu provoquer. On est un peu les Social Justice Warriors de cette industrie du jeu vidéo.
Je pense que Romain il peut être n'importe quoi là dans son état de fatigue.
C'est possible.
On peut lui mettre n'importe quelle casquette ou ouais, chapeau.
Le combo le combo boulot bébé Last of Us, ouais, il m'a un peu
accueilli, surtout tout mélangé et c'est que voilà, malheureusement on peut dire que c'est un enfant qui a souffert.
C'est
voilà.
The Last of Me, quoi. Tu vois, quand j'ai.
Quand t'as été à la plage et que t'as commencé à baigner. Enfin, bon, bref.
Et quand la scène d'Eli avec avec JJ dans les bras, comme ça, je me suis dit, oula, oula, ça me rappelle des choses. Quand j'ai commencé à avoir des hallucinations avec mes enfants dans les bras.
En allant rentrer tes moutons.
Ah, moi aussi, quand je tiens mes enfants dans les bras, je vois Joel en train de se faire, massacrer.
Et tu passes la main dans les champs de blé ou pas aussi quand t'arrives à Levallois?
Dès que je peux, mais les gens me regardent bizarre. Enfin, pas dans les champs de blé, mais sur le trottoir, tu sais.
Il y a du blé à Levallois, non?
Je marche comme ça.
Oh oui, il y a du blé à Levallois. Bon, bref. Et si on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer donc ce spoilcast avec la première question. Toute simple, concernant The Last of Us Part 2, question à laquelle on vous invitera évidemment à répondre dans les commentaires, à vous aussi, chers lecteurs qui avez fini The Last of Us, et pas ceux juste qui pensent avoir fini le jeu en ayant lu quelques spoils. La mort de Joël. Voilà, c'est le gros événement du jeu, c'est celui peut-être qui lance vraiment le jeu complètement. Est-ce que vous vous y attendiez?
Oui. Oui, parce que pas de la manière dont ils l'ont fait, mais je me souviens très bien au PlayStation Experience quand le jeu avait été annoncé. Il avait été annoncé avec une vidéo de Ellie et Joël dans une maison en train de faire face à des ennemis. D'ailleurs, une scène qui n'est pas du tout dans le jeu final, de mémoire. Et je me souviens qu'à l'époque, plein de gens déjà disaient « Ah, mais vous allez voir qu'en fait, elle l'imagine. » Il est pas vraiment là avec elle l'a dans ses pensées. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis en tête que il y aura un truc avec Joël et que ça serait pas funky à ce niveau-là. Et donc, ça s'est pas fait de cette manière-là. Mais quand ça arrive dans le jeu, assez tôt en plus, je peux pas dire que j'ai été plus étonné que ça, parce qu'en plus ils aiment bien être audacieux chez Naughty Dog.
La façon dont ils meurent, c'est ça surtout.
Ah bah c'est hardcore, c'est la façon et le timing. Genre tu dis une mort héroïque au bout de 25 heures de jeu ou je sais pas quoi, il meurt à la toute fin en voulant sauver Ellie.
En se sacrifiant.
Ah oui, voilà, il fonce dans une voiture en flammes sur les clickers avec une bombe à la main, ah oui, et puis il finit avec un dernier mot genre « Fuck !» comme ça.
Ouais, avec « I need a hero » de Bonnie Tyler.
Voilà, exactement.
Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, il se fait choper comme...
Il se fait cueillir en étant super gentil.
Oui, il se fait cueillir de la manière dont ses collègues et lui auraient pu cueillir d'autres personnes auparavant. Et tu sens le désir de vengeance contre lui qui est vraiment exacerbé à ce moment-là. Et ouais, il se fait abattre comme un animal, clairement.
Et quel effet ça a eu sur toi?
Alors, c'est marrant parce que j'ai... session de jeu que j'ai arrêté un peu après la mort de Joël, j'ai eu une succession de sensations différentes. Il y a un truc avant qui m'a filé des frissons, mais j'arrive plus à me souvenir quelle scène. Et au moment où Joël se prend ce coup de batte dans la tête là,
c'est un coup de club de golf.
Club de golf, oui, pardon.
C'est encore pire.
Là, j'ai eu genre un coup dans le ventre, tu vois. Ça m'a vraiment fait bizarre. Même si je m'y attendais pour le coup, je m'attendais à ce qu'il meure. Que ça arrive comme ça à ce moment-là, ça m'a mis un coup dans le ventre.
Thomas, tu t'y attendais ?
Moi, je vois rien arriver dans les films. Je suis super bon public. Et le pire, c'est que la com de Naughty Dog a été quand même superbement bien faite.
On en parlera juste
niveau-là.
Après. Ouais.
Voilà. Mais on avait vu un trailer l'année dernière, à l'automne 2019, qui se terminait sur « Ah, mais qu'est-ce que tu fais là ?» contre-plan avec Joel qui est dans les environs de Seattle. Et en plus, c'est le plan sur lequel se terminait la démo que j'avais essayé à cette époque-là. Donc pour moi, c'était clair et net que de toute façon, il était dans le jeu, qu'on allait le retrouver, qu'il était séparé d'Ellie à un moment donné, mais il allait revenir à un moment ou un autre. Et du coup, quand la scène arrive, j'ai eu du mal à y croire, en fait. Je me suis dit, ouais, mais attends, on l'a revu, moi je l'ai vu plus loin, donc il doit y avoir un truc. Et j'ai eu du mal à l'accepter, en fait. Pas parce que je voulais pas que ça arrive, mais parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et en fait, il a fallu que j'attende le moment où on croise celui qui est en fait Jesse dans les environs de Seattle quand on est pourchassé et que les chiens arrivent, pour me dire « Ouais, ok, d'accord, c'est plié de chez plié. »
C'est-à-dire que même avec la tombe, t'y croyais pas ?
Non, je me suis dit « C'est quand même chelou. » Même la tombe, même le fait de retourner chez lui, je sais pas. J'avais un espèce de déni sur ce qui s'était passé.
Comme Super Mario Bros. 2, tout ceci n'était qu'un rêve. Non, mais t'as Ellie avec son bonnet de nuit à la fin.
C'est pas que je voulais à tout prix y croire, mais j'étais persuadé qu'il allait se passer quelque chose et qu'il allait y avoir encore un twist qui ferait que, en fait, non, c'est plus compliqué que ça, mais évidemment, ça n'est pas arrivé.
Et l'effet sur toi de la scène en elle-même ?
Bah, très violent, et pour l'avoir refait il y a pas longtemps, j'ai encore plus eu mal en le revoyant se faire défoncer, ne serait-ce qu'au moment où il lui flingue la jambe pour l'empêcher de bouger. Enfin, c'est hyper réaliste en même temps, et non, ça m'a fait quelque chose physiquement aussi. La plupart des gens qui se font massacrer lentement dans cette deuxième partie m'ont plutôt touché, en fait. Tu sens la souffrance, les coups qui sont assénés au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, tu vois bien qu'Abby, quand elle arrive et qu'elle lui fait face, elle lui dit clairement qu'elle va prendre son temps et qu'elle va savourer, lui défoncer la tronche et qu'elle va pas lui tirer une balle dans la tête, quoi.
Très bien. Alors,
et l'impuissance d'Ellie, en plus, à ce moment-là.
La tristesse.
Comme tu t'es attaché à ces personnages-là via le premier jeu... même si Joël est clairement pas clean dans le premier jeu, hein, il a des choses à se reprocher, il a menti à Ellie, etc. Malgré tout, tu t'attaches et eux-mêmes ont une grosse connexion, et donc tu te mets à la place d'Ellie de le voir. Même si tu sens au début du jeu qu'il s'est passé un truc entre eux qui a un peu rompu leur
relation.
Mais
il se fait défoncer par une bande d'étrangers, donc qui sont a priori quand même des méchants qui sont venus buter quelqu'un pour qui t'as un attachement particulier.
Ah bah, l'idée c'est justement, et c'est là, c'est une des choses qui font que c'est très malin, c'est que la première partie, elle est vraiment faite de manière à ce que tu détestes ces gens-là, et quand tu les chopes, t'as envie de les faire souffrir, tu vois, et de te venger.
Est-ce que vous considérez donc, comme vous avez fait le premier aussi, comme moi, vous êtes attaché à Ellie et Joël ensemble, est-ce que vous considérez, comme certains fans du premier qui se sont exprimés très fort, très vivement sur le net, que c'est un manque de respect pour les fans d'avoir tué Joël de cette façon ?
Bah non, pourquoi ? Enfin,
ouais, c'est... Vous me posez pas la question, non, à moi, je sais, hein, moi je suis...
Je sais, mais je veux dire, quand tu prends l'univers tel qu'il est décrit dans The Last of Us, t'as plus de chances de mourir ou pire que de rester en vie, en fait. C'est le cas de Eugene, dont Ellie parle avec Dina au début, où elles sont toutes les deux assez estomaquées qu'il soit mort presque naturellement à 73 ans. Tu sens bien que c'est pas un truc qui arrive souvent, donc t'as toutes les chances de mourir, et sûrement d'une manière un peu violente. Donc quelque part, ça aurait été, de mon point de vue, moins cohérent que les deux restent en vie, surtout après tout ce qu'ils vivent, enfin, toutes les aventures qui se passent dans cette seconde partie, toutes les zones que tu traverses qui sont infestées d'humains, d'infectés, etc. Ça aurait été beaucoup moins crédible, finalement, que les deux s'en sortent.
Mais ça fait même partie du... du petit slogan que les Wolves font entre eux. Tu sais, quand ils se disent au revoir, ils se disent que ta vie soit longue et que ta mort soit brève. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire aussi. Et je pense que le vrai manque de respect, ça aurait été si on refaisait un Last of Us 2 à la manière du premier avec Ellie et Joel tout le long et que Joel se faisait buter ou que les deux se faisaient buter de manière un peu ridicule à la fin, là, tu vois. Là, c'est la mort au profit vraiment du récit et de tout ce que de tout ce qu'ils ont à te raconter à travers du jeu. Et ça a le mérite aussi de pas te proposer une suite dans la même veine directe du premier épisode, ce qu'on a parfois tendance à voir dans le jeu vidéo. Là, ils font. Enfin, j'ai essayé de repenser à des jeux comme ça où le protagoniste du premier se fait buter salement au début de la suite. J'ai pas de cas comme. Enfin, j'ai pas vraiment d'exemple.
Il y a que dans les séries des années 80 ou 90 où ils s'amusaient à faire ça quand l'acteur changeait, voilà, genre Supercopter, le héros des premières saisons il est mort et en fait ça va être son cousin qui va venir, c'est fou ça, ce genre de truc.
Donc ouais, moi j'ai pas du tout été blessé vis-à-vis de ça, et en plus je trouve, alors là c'est mon ressenti personnel, mais que Ellie, qui est l'héroïne du premier, elle est déchue progressivement elle est déchue à mes yeux dans cette suite progressivement. Alors j'ai lu des déclarations de Neil Druckmann où il expliquait que le but c'était pas forcément d'en faire la méchante une fois arrivée à la fin du jeu, mais c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Et là encore, je trouve ça tellement audacieux et tellement cohérent avec l'univers et avec les rapports que les humains entretiennent avec la vengeance, etc. Enfin, on va revenir sur
Et puis surtout, il s'est passé quelques années en plus. Le jeu commence, il y a plein de choses que tu ignores sur son évolution, et elle est quand même passée d'un stade adolescent à un stade de jeune adulte, dans un contexte une fois de plus particulier, donc il a aussi pu se passer plein de trucs dans sa tête qui font que l'espèce d'ingénue, j'exagère, mais de jeune fille encore un peu crédule que t'abandonnes à la fin du premier, a fait du chemin finalement et n'a plus le même ressenti sur les choses que 4 ou 5 ans auparavant.
Oui, rappelons que Traz, lui, imaginait, il n'est pas malheureusement pas parmi nous aujourd'hui, mais Traz imaginait une espèce de scénario à la Les Oiseaux se cachent pour mourir, où Ellie et Joel auraient peut-être même fini ensemble. Et, alors, il croyait avoir entendu un truc dans la bouche de Dina.
Il s'est pris pour Woody Allen.
Là, c'était un petit peu hardcore, ce qu'il a cru comprendre, Traz.
Personne l'a suivi dans.
Mais personne, oui,
je l'avais pas entendu dire ça.
Mais personne, ouais. Personne a entendu ce qu'il a entendu, mais voilà, il fallait en parler.
Ah, ça aurait été bien malaisant ça dans le jeu.
Ah oui, ça aurait été même affreux je pense, hein, mais bon.
Il y a plein de trucs affreux quand même. Hein.
Bien sûr.
Mais dans tous les trucs dégueulasses qu'ils te font dans le jeu, ça, le limite incestueux, ils l'ont pas encore, ouais. Ils l'ont pas encore fait.
Ouais, ils le gardent
bientôt dans Last of Us 3.
C'est ça.
Ah oui, ça serait possible, effectivement. On va parler justement de la com, puisque Thomas, t'as esquissé le sujet il y a quelques instants, le fait que Naughty Dog ait volontairement mis tout le monde sur des fausses pistes, est-ce que vous vous êtes senti vous-même trahi ? Alors Romain, je vais commencer par toi, parce que je crois que toi, t'as été le plus...
Moi, j'ai un double effet qui se coule par rapport à ça. Que dans les trailers, dans les démos ou les choses comme ça, ils nous mènent en bateau dans les previews, etc., en montrant des scènes qui ne sont pas dans le jeu final ou des choses de ce genre-là. Aucun problème, je trouve ça même plutôt bien, parce que c'est très difficile de nos jours, et on l'a vu avec les fuites, etc., c'est très difficile de ne pas te faire spoiler d'une manière ou d'une autre, donc ça c'est très bien, j'ai aucun problème avec ça. Là où ça me pose problème, c'est quand tu es en interview, qu'un journaliste te pose une question et que là, face-to-face, tu lui mens ouvertement. Ça me plaît pas. Parce qu'il y a plein de moyens, et on le voit avec tous les embargos qu'on signe à longueur de vie, parfois même avant des interviews, on a des consignes, etc. Il pourrait très bien nous dire « vous n'abordez pas ce sujet ». Ou alors, si vous l'abordez, on n'y répondra pas. Mais les gens se sont fait piéger, tu vois. Est-ce qu'on va incarner Joël dans Last of Us 2 ? Oui. Je sais plus quel était le mensonge, mais c'était un truc de ce goût-là.
Bah, que Ellie serait le seul personnage jouable
de Last of Us 2. Des choses comme ça.
Et d'ailleurs, c'est le seul personnage dont on pouvait parler en tant que personnage jouable pour le test. Ouais. On pouvait pas évoquer qui que ce soit d'autre.
Ça, l'embargo, l'embargo du test, c'est encore autre chose, même s'ils sont de plus en plus restrictifs et c'est quand même super pénible. Pour les interviews, je trouve ça embêtant pour nous. Alors après, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui ont trouvé ça très bien.
Ah bah j'en fais partie. Pour moi, la com, elle est, elle est idéale pour justement éviter qu'il y ait malgré les leaks, hein, il y a quand même eu des fuites qui finalement, même si je les ai vues, m'ont absolument pas impacté à aucun moment. Mais je trouve que c'est très bien de nous avoir tous menés en bateau, bernés sur des tas de trucs, pour qu'à la fin, il y ait toujours des effets de surprise, il y ait toujours l'impression de découvrir quelque chose qu'on savait pas. Et après, oui, je comprends ton point de vue sur l'aspect journalistique et le fait de vouloir renseigner, mais je pense que pour un jeu comme ça, qui repose vraiment à 100% sur tout ce que la narration, tout ce que l'histoire, tout ce que le développement des personnages vont apporter à l'expérience, je pense que c'est même vital qu'ils aient fait ça, en fait. C'était nécessaire pour éviter que, par mégarde, tu vois, même dans un test, tu te mets à écrire un truc, tu t'en es pas rendu compte, tu donnes un indice. Et ça débouche sur une surprise qui est gâchée. Là, quand ils nous mettent justement la fausse fin de trailer avec Joel qui a été remplacé par Jesse, quand ils nous disent oui, il y aura que Ellie qui sera jouable, ça c'est des mensonges que j'aimerais bien avoir encore peut-être à l'avenir pour des jeux qui vraiment m'importent beaucoup. Et là, pour le coup, je les félicite plutôt qu'autre chose.
Ouais, je suis complètement d'accord pour le coup. Enfin, moi, pour ce jeu-là, je préfère être mal aiguillé, même pour le coup en interview, on n'avait pas été briefé, mais quand j'avais pu interviewer Ellie Gross, qui était la co-scénariste, on nous avait dit, voilà, on parle de ce personnage-là, Ellie en l'occurrence, donc vous organisez tout autour de ça, et de toute façon, on n'avait pas d'éléments à l'époque pour gloser sur d'autres trucs ou imaginer qu'il allait se passer telle ou telle chose. Et je finis juste, pour être vraiment raccord avec Plume, j'aurais pas eu la même expérience si y a des choses qui avaient filtré avant. Moi, j'ai été surpris, mais vraiment de bout en bout, par tout ce qui se passe, y compris les personnages qui ne meurent pas. Parce que par exemple, pour moi, Dina, c'était, on s'attachait tellement à elle, il y avait un lien tellement fort avec Ellie que c'était obligé qu'à un moment donné, elle allait y passer. Et ben non, ça aussi, c'est une surprise.
Tant mieux.
Mais voilà, moi, j'ai été très agréablement surpris d'être systématiquement estomaqué par ce qui se passait, parce que je ne voyais rien venir et j'ai vraiment adoré ça.
Donc pour Romain, on ne touche pas à Dina. Ouais. Dina, elle est intouchable.
On ne sait pas, hein. Il est peut-être arrivé des choses horribles. Rien à
du
elle,
tout.
Son
tout
JJ
va bien.
Et oui, non, c'est là encore, moi je sépare vraiment les trailers, les visuels, etc., des interviews, parce que nous, c'est notre métier, c'est d'informer les gens. Et moi là, ça me donne l'impression de participer à la com du truc, même si quand on fait des articles et trucs comme ça, forcément c'est pour faire parler du jeu. Mais là, j'ai l'impression qu'on est utilisé comme des outils pour faire passer des mensonges. On voit que les films Marvel, il y a énormément de secrets autour d'eux aussi. Les acteurs arrivent très bien à ne pas révéler des choses sans pour autant mentir à la presse. Je trouve qu'il y a d'autres moyens de faire vis-à-vis de ça. Ça me gêne un peu.
Vivement des jeux avec Tom Holland et Mark Ruffalo. Alors là.
Juste là-dessus, il y a maintenant une salve d'interviews finalement qui sont sorties maintenant que le jeu est dispo et que tout le monde a eu le temps de le finir, où Druckmann, Gross et une partie de l'équipe reviennent justement en mode full spoiler. Donc on n'y a pas eu accès, mais il y a des médias qui maintenant peuvent poser des questions une fois le jeu digéré aux créateurs. Donc on va dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait au moins en deux temps.
Oui, mais l'idée, c'est pas de... Je dis pas de dès l'interview à l'annonce du jeu en 2016 ou je sais quoi. L'idée, c'est pas de tout de suite tout balancer. C'est juste que s'il y a des choses dont ils veulent pas parler, qu'ils nous l'indiquent clairement, comme ça on n'en parle pas, plutôt que de nous dire des bobards. Parce qu'après, tu vois, par exemple, quand il y a un jeu qui est annoncé à l'E3, un truc comme ça, tout le temps, ils nous proposent des interviews. Genre, on vient de balancer le premier trailer du jeu. Est-ce que vous voulez faire une interview? Est-ce que vous voulez faire une interview? Moi, maintenant, j'ai vachement de lassitude avec ça. Parce que je sais que l'interview, à part répéter ce qui est vu dans le trailer ou dans le communiqué de presse qui va avec, ils pourront rien nous dire. Et en plus, maintenant, il y a quand même le risque que les mecs nous racontent des bobards. Donc, quel est l'intérêt de faire des interviews?
Faut pas généraliser non plus. Après, pour faire l'avocat du diable, les gens sur le net ont maintenant tellement tendance à tout disséquer. Il faut voir, quand on a eu les premiers visuels, rapidement, il y a des gens qui ont recoupé ce qu'on voyait en disant ça se passe à Seattle, on a vu tel bout, tel panneau, ça va être dans tel quartier. Donc le simple fait qu'on aurait eu à un moment donné des consignes pour dire n'abordez pas tel ou tel sujet, tout de suite, si ça fuite, les gens vont commencer à spéculer, à s'imaginer des choses, et là, tu perds l'effet de surprise.
Je dis pas que je dis pas que c'est le meilleur moyen, mais j'aurais toujours un petit problème avec un intervenant qui te ment ouvertement et de manière éhontée.
Ça fait partie du jeu d'ailleurs d'avoir une méfiance vis-à-vis de ses congénères en permanence. Voilà, je trouve qu'au niveau de la com, c'est encore un coup
de
génie. Oui,
comme par exemple ne pas forcément croire les démentis.
Aussi.
Je dis ça, hein, je dis rien.
Par exemple.
Par exemple, ça me vient comme ça.
Alors, on en a fini avec cette histoire de com mensongère. Bouh. Bouh Naughty Dog. Ou pas, d'ailleurs. Félicitations, plutôt. On va passer maintenant au découpage du jeu en lui-même. Ouais. Puisque, pour les personnes qui savent, il y a deux parties. On va dire trois, mais... vraiment deux grosses parties pour commencer.
Bah si les gens sont encore là dans le podcast et qu'ils ne savent pas que le jeu est coupé en deux parties, je les plains.
Hein. Ah, vraiment, ils ont passé le début.
Si vous vouliez vraiment vous faire spoiler, bravo.
Vous êtes
au bon endroit. La première partie donc est consacrée à Ellie et là, quoique avec un petit changement quand même de point de vue au début, qu'on a un peu de mal à comprendre au départ.
Oui, c'est vrai.
Même beaucoup de mal à comprendre au départ.
C'est qui ?
C'est qui ? Pourquoi c'est aussi court et qu'est-ce qui se passe ?
Est-ce qu'on va les revoir après ? Est-ce que...
Et après avoir fait une grosse partie avec Ellie, avoir atterri dans un théâtre, c'est un théâtre abandonné à Seattle, on va se retrouver à un moment assez critique, qui plus est, à incarner Abby. Alors, Abby, au final, quand on fait le jeu comme ça, de bout en bout, est-ce qu'on peut se dire vraiment... quelle est l'antagoniste d'Ellie ? Elle qui a quand même tué Joël au début du jeu.
Salement.
Très salement. Mais est-ce que au fur et à mesure, on va pas se dire mais ça se trouve, c'est Ellie et Joël les méchants ?
Je pense que c'était un peu le but recherché, même si là encore j'ai lu que Neil Druckmann voulait pas que ça soit si tranché que ça, tu vois, c'est les fameuses nuances de gris entre les gentils et les méchants.
Je suis assez d'accord.
Mais avec mon caractère, moi je sors du jeu en étant Team Abby à 200%. Clairement. Et même si, tu vois, au moment où t'es dans les coulisses du théâtre et que t'as peut-être le plus gros boss fight du jeu où tu dois échapper à Ellie, etc. Quand tu la chopes et que tu l'étrangles comme ça et que tu dois bourriner sur carré pour l'étrangler et que tu la vois à ses yeux qui lui sortent presque de la tête, moi j'étais mal à ce moment-là parce que même si à ce moment-là de l'intrigue je suis pour Abby, j'ai de l'empathie pour elle et je comprends sa manière de réagir, etc., j'ai quand même pas envie d'étrangler, j'ai pas envie de tuer à main nue comme ça Ellie, donc j'étais un peu mal. Mais globalement je trouve que si tu fais le tableau des pour et des contre de chaque personnage, je trouve que Abby a quand même un peu plus raison que Ellie. Et elle est moins vulgaire et la vulgarité d'Ellie m'agace.
Oh, n'importe quoi.
C'est une ado.
C'est de la grossièreté, c'est pas de la vulgarité. Pour commencer.
Moi, je suis sorti, Thomas, comme toi, du premier run en me disant ok, maintenant les rôles sont inversés, Ellie est devenue l'antagoniste et Abby est devenue l'héroïne. Et maintenant que je le refais, je suis plutôt dans les nuances de Grid Druckmann finalement, parce que la première fois, tu te dis que en fait, c'est Abby qui a eu le dessus parce qu'elle a été plus intelligente, elle a été plus réfléchie, et c'est elle qui réussit à un moment donné à mettre fin au cercle de la violence en l'épargnant deux fois d'ailleurs, parce qu'elle l'épargne dans le chalet. Elle ne la tue pas alors qu'elle aurait pu la buter tout comme Tommy et se débarrasser des deux corps. Et ensuite, au moment de la rencontre où finalement elle la laisse partir en lui disant « je ne veux plus jamais te recroiser ». Ce que t'espères voir se réaliser du coup, mais malheureusement ça n'arrive pas. Et donc on pourrait penser que c'est vraiment l'héroïne, et finalement tu te rends compte que Ellie, même si elle retourne chasser Abby à la fin du jeu, dans la toute dernière partie, même si elle a commis des exactions assez ignobles finalement avant, et que tu as assisté à sa transformation, elle lâche prise, elle aussi, à un moment donné, et finalement si elle retourne à Santa Barbara dans l'optique de tuer une bonne fois pour toutes celle qui synthétise un peu toute sa colère, etc., elle finit par non seulement lui sauver la vie de Lev, et elle les laisse partir finalement en ayant sauvé la vie de quelqu'un qu'elle détestait, et tout perdu, puisque quand elle rentre chez elle, il n'y a plus ni femme, ni enfant, ni meuble, ni quoi que ce soit. Donc finalement, tu te dis qu'elle a eu un bref instant de lucidité quand tu as cette apparition de Joel posée sur son perron avec sa guitare qui l'a fait s'arrêter, alors que ça fait je sais pas combien de dizaines de secondes que t'es en train d'étrangler quelqu'un, de maintenir la touche, de voir le sang qui commence à sortir de l'eau, etc. Bah, finalement, tu te rends compte qu'elle aussi réfléchit et que finalement, elle va pas jusqu'au bout des choses. Donc, finalement, je trouve que tu comprends les motivations des deux finalement, parce que les deux ont perdu des personnes qui leur étaient extrêmement chères, les deux ont beaucoup de ressentiments vis-à-vis d'autres, mais finissent par stopper finalement tout ça. Ouais. Et c'est ce qui rend le fonctionnement de cette espèce de duo improbable assez intéressant.
Mais cette dernière séquence, la dernière chasse de Ellie à Santa Barbara, je trouve, c'est la chasse de trop.
Parce mais je dis pas le contraire.
C'est la chasse de trop. Bah déjà parce qu'on sait comment ça se termine pour elle. Mais en plus, elle a été épargnée deux fois par Abby. Et non seulement elle a été épargnée elle, mais à partir du moment où elle dit à Abby que sa copine, son nom m'échappe, est enceinte.
Mel.
Dina. Dina, ouais, Dina, pardonnez-moi. À partir du moment où elle dit que Dina est enceinte, eh ben elle la tue pas, tu vois. Elle arrête.
Parce que Lev regarde. Hein. Parce que Lev regarde et fait des grands yeux, oui, non, peut-être pas.
Elle arrête quand même. Elle arrête quand même, donc elle la sauve.
Si Lev n'est pas dans la pièce, elle y va. Si Lev n'est pas dans la pièce, elle y va, elle l'écharpe.
Il a un vrai rôle de catalyseur.
Elle charcle tout. J'en suis sûr.
Et c'est un peu lui d'ailleurs qui, de mon point de vue, lui permet de s'extirper de sa condition un peu militariste, de l'environnement dans lequel elle évolue, dans le stade de Seattle, etc. Elle se prend tellement d'affection finalement pour ce gamin que c'est grâce à lui qu'elle va trahir d'ailleurs ses anciens alliés, jusqu'à prendre en joue quelqu'un face à Isaac à la fin. Enfin, il a un rôle hyper important aussi, Lev, dans l'intrigue.
Elle lui dit
sur ce changement justement de psychologique.
Elle lui dit t'es mon groupe. Genre à un moment, Lev lui dit t'as tiré sur ton groupe ou sur tes amis ou etc. Elle dit c'est toi mon groupe et voilà, repart. En fait, c'est le retour à zéro. Abby fait un peu table rase. Passé.
C'est la réunification avec Abby, on va dire. Sauf que bon bah là c'est tout le contraire, c'est tout le monde qui est contre elle et qui veut voter contre elle au conseil. Mais
et en plus un autre truc, c'est que Ellie, elle tue tellement de chiens. Ce que Abby ne fait pas.
Bah ouais, mais bon. Alors,
j'ai eu un traumatisme là-dessus hier, j'en parle très rapidement. Refaire le jeu une deuxième fois, c'est vraiment hyper intéressant. Déjà pour comprendre les cheminements quand tu tombes sur. Nora. Dans l'hôpital, tu sais ce qui vient de se passer, tu sais qu'elle est en train d'elle-même mettre en jeu quelque chose d'important pour qu'Abby ait pu s'enfuir. Mais surtout, juste avant cette séquence-là, il y a une petite phase d'infiltration avec un combat, et notamment une meuf qui finit par nous attaquer avec un chien. Et il se trouve que j'ai tué le chien avant de tuer sa dresseuse. Et là, on l'entend dire non, Bear! Et là, d'un coup, tu réalises, c'est Bear, c'est le chien à qui t'as lancé la balle dans le stade avec Abby, c'est le chien que t'es allé caresser, avec lequel t'as pu jouer un certain temps, qui a des réactions, etc. Et tu te dis, putain, mais c'est pire que tout. Déjà, tuer les chiens, c'était des moments horribles, je trouve, dans le jeu. Mais là, en plus, c'est un toutou pour lequel t'as eu un surplus d'empathie, et j'ai trouvé ça hyper intelligent, sordide, mais vraiment hyper intelligent.
Ah, ils sont vicieux, hein. Des esprits malades.
Ou pas.
Et toi, Plumeau?
Moi quoi?
Bah par rapport à par Team rapport Abby, à Team Ellie.
Ah mais moi j'étais 100% Ellie dès le départ.
Ah ouais?
Bah excusez-moi, j'ai eu
tant de... En plus de 100% Jésus, t'es 100%...
Ah ouais, plus que 100% Jésus, alors là sans problème. Je me suis attaché à Ellie dès le premier épisode. L'avantage d'Ellie, c'est qu'elle a eu un épisode juste avant.
C'est que tu la connais, ouais.
Voilà, c'est que je la connais, et que malgré tout, si je reprends moi aussi la chronologie de tout, je me rappelle qu'il y a des gens qui veulent sauver... qui veulent sauver le monde, mais en tuant une gamine, qui n'ont pas trouvé une autre solution qu'en tuant une gamine, et que je sais pas si ça justifie qu'on bute le médecin qui veut absolument essayer de.
Ah, il pouvait faire autre chose.
Voilà, Joël pouvait faire autre chose.
Et tous les gens qui l'entourent, ouais, aussi, parce que c'est un vrai massacre.
Mais comme Joël, si je suis à sa place, je refais exactement la même chose, et je me pose pas la question. Et même si ça débouche sur tous ces événements, bah c'est tout, c'est comme ça. C'est Ellie d'abord et personne d'autre.
Même avec tous les chiens qui meurent.
Bah ouais, mais qu'est-ce,
d'accord,
que tu veux,
non, c'est comme
ça. Même quand on te montre l'envers du décor, en fait, tout ce que Abby elle a vécu, tous les gens qu'elle connaît, tout ce que eux traversent aussi, tout ça a pas influé sur ton ressenti.
On va en parler peut-être. On peut en parler maintenant d'ailleurs.
Ah bah vas-y, roi de l'esquive.
On va en parler immédiatement du développement des personnages, parce qu'effectivement, vous avez raison d'aborder le sujet. Il y a un gros souci dans le jeu. Je dis que c'est un souci parce que quand on est un peu émotif, c'est pas le genre de choses qu'on peut supporter. C'est que le développement des personnages, de tous les personnages secondaires, dits secondaires, est en cela extraordinaire que j'ai retenu les prénoms de tout le monde. Et si j'ai retenu les prénoms de tout le monde, c'est parce qu'on a eu le temps de les connaître, de les voir, de discuter avec eux, de connaître leur motivation dans la vie, leurs envies, leurs problèmes personnels aussi. Et qu'à cause de tout ça, oui, effectivement, forcément, j'ai eu des remords. Et que j'ai trouvé que justement, le découpage même du jeu, qui est donc pas linéaire, qui est pas une chronologie pure, était incroyablement vicieux de nous faire un truc comme ça. Je veux dire, à part, et j'aime bien prendre cette référence, à part dans Austin Powers, quand on parle des hommes de main, mais cet homme de main, il a perdu, enfin, il avait une femme et des enfants, etc. Je veux dire, c'est vrai qu'on pourrait ne pas s'attarder sur ces personnages-là, mais l'avoir fait, ça rend le truc encore plus absurde, encore plus con.
Ça fait mieux passer le message.
Exactement, ça fait mieux passer le message. Et en même temps, quand tu sais ce qui s'est passé au début, t'as une espèce de... je sais pas, t'as une espèce de double post-trauma, en fait. T'as le côté, bah oui, il faut que j'aille me venger, c'est normal, et j'ai l'image de Joël qui revient en permanence, et de l'autre côté... Mais pourquoi j'ai buté ces gens? En fait, ils étaient plutôt sympas. Ils ont juste fait un truc qui est logique dans un monde comme celui-là où t'as plusieurs factions et il y en a une qui essaye de faire le bien et une autre qui essaye aussi de faire le bien, mais différemment.
Leur reproche, finalement, c'est d'être dans le camp d'en face. C'est à peu près le seul truc qui fait que t'as quelque chose contre eux. C'est qu'ils se sont retrouvés à un moment donné dans une autre faction. Ça va pas plus loin que ça.
Bah, c'est un peu PNJ. PNJ The Game, The Last of Us 2, c'est
PNJ Empathy.
Dans un jeu où on est habitué à tuer tout le monde sans faire attention aux balles qu'on distribue et à qui, etc. Là, on te montre l'inversé. C'est un peu comme dans Shenmue où t'avais chaque PNJ que tu croisais avait un nom, un emploi du temps, un historique, etc. Tu vivais pas directement à travers eux, mais tu savais qu'ils avaient une histoire. Bah là, c'est un peu ça, mais en version encore plus extrême, au sens où tu les tues. Et c'est là où c'est dur, c'est que tu les tues avant de les connaître.
Oui, mais ça facilite le travail, oui, justement. Ah bah, tu poses moins de questions, parce que si tu savais avant qui étaient tous ces gens, et ça va... Tu disais que la galerie de personnages dits secondaires était vraiment pléthorique, et c'est vrai, et ça va jusqu'à notamment cette nana qui joue à Hotline Miami sur Vita, que tu butes son ménagement, voilà, qu'on a vu, et que tu ne connais pas du tout, mais qu'après tu rencontres avec Abby, et même si tu la vois pas longtemps, ben, t'as un petit peu d'affection pour elle, parce qu'elle aussi,
une ado qui...
elle aussi, elle traîne ses problèmes, ses merdes, elle essaye de se débrouiller dans ce monde-là, etc. Et ben, elle a voulu se défendre, et voilà, elle s'est fait planter misérablement.
De tous ces personnages secondaires, lequel retenez-vous le plus?
Ça dépend.
Auquel vous êtes plus, peut-être le plus attaché?
Alice.
Le toutou, donc.
non, j'ai bien aimé Lev. J'aime bien sa naïveté associée à son sang-froid, à toute épreuve. Après, je suis peut-être un peu trop empathique, mais ça a même eu sur moi l'effet de me donner de l'empathie pour les Scars. Parce que même s'ils sont un peu bizarres et qu'ils sont dans un délire sectaire slash religieux qui est à l'opposé même de ce que moi je pense et de ma manière de vivre ma vie, etc. Quand tu arrives chez eux, déjà avec les petites discussions que tu as au fur et à mesure avec Lev, même si il t'explique qu'il s'est fait chasser pour des raisons complètement idiotes en plus, il s'est fait chasser de son camp, etc. Mais il reste malgré tout attaché aux valeurs qui sont transférées par leur sorte de déesse slash gourou, etc. Et il continue d'avoir un attachement pour son peuple, entre guillemets. Et quand tu vas sur leur île, bah, tu te rends compte que, comme les wolves, comme les gens de Jackson, ces gens-là avaient juste envie de faire leur vie tranquillement, et que s'ils étaient militarisés, etc., c'est juste parce qu'on est dans un monde hostile où il y a des menaces dans tous les sens, et donc ils voulaient être capables de répondre à ces menaces. Mais au fond, enfin, d'après ce qu'on nous en dit, Oui, ils sont très religieux, ils ont leur façon de faire les choses, mais ils avaient juste envie qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse vivre tranquille. D'ailleurs, quand tu vois l'évacuation / l'attaque de leur île, bah tu vois les enfants. Tu vois les gens qui essayent, les femmes et les enfants qui essayent de se planquer, qui essayent de d'évacuer, qui essayent de se cacher, etc. Et donc tout ça c'est marquant. Et je trouve que c'est encore plus marquant via les discussions que tu as avec Lev tout au cours de la séquence où tu es avec lui. Voilà.
Thomas,
bah, j'ai eu beaucoup d'affection pour Lev aussi, et puis forcément pour Dina, parce que c'est l'élément qu'essaye de calmer systématiquement un petit peu Ellie, alors qu'il n'y arrive pas malheureusement, parce qu'à chaque fois qu'elle essaye de la retenir, ça ne marche pas, mais elle a ce côté beaucoup plus doux finalement qu'Ellie, qui est aveuglée par sa vengeance, et il y a tout un tas de scènes dans lesquelles tu sens qu'elle réussit à apaiser un petit peu les choses. Moi, c'est une scène qui m'a vachement marqué, celle du retour d'Ellie au théâtre, justement, où Dina est planquée avec Jesse, une fois qu'elle a extirpé auprès de Nora le fait qu'Abby se planquait dans l'aquarium au nord de Seattle. Ellie rentre dans un état de stress post-traumatique, limite avec les mains qui tremblent, le regard un peu vide, et Dina lui dit quasiment rien, elle la prend juste dans ses bras, elle dit « Attends, on va aller te laver ». Et il y a une scène vraiment avec beaucoup de douceur et beaucoup de messages aussi à travers les images, et j'ai bien aimé ce personnage, et surtout j'étais complètement d'accord avec elle quand pour le coup ce connard de Tommy vient les trouver dans leur maison pour lui dire hey, on a retrouvé sa trace, elle est peut-être à Santa Barbara machin, et là le premier truc qui sort de la bouche de Dina c'est non, on fait plus ça maintenant, et toi tu te dis mais oui, on ne fait plus ça. On a
pas envie d'y retourner.
On a une vie. Regarde, sors de chez toi, regarde le panorama qui t'entoure. T'as des bêtes.
Mais vous comprenez, Tommy, il a perdu son frère quand même.
Oui, mais il y a un moment donné. Oui, mais à un moment donné, il faut.
Ellie, elle a perdu un mec qui était quasiment son père.
Mais oui, mais qu'est-ce qu'elle va perdre là? Sa meuf et son gosse. C'est pas rien non plus, tu vois. Enfin, à sans cesse courir après son passé, après des rancœurs qui sont derrière nous, tu loupes ce que t'as devant toi, et moi c'est ça qui m'a énervé. Et pour le coup, c'est ce que j'ai aussi apprécié chez Dina, c'est que pour moi c'est elle qui à ce moment-là a vraiment la tête sur les épaules et a la clairvoyance de se dire non mais c'est bon, en gros on a eu un essai, maintenant c'est fini, tout ça est derrière nous.
C'est un cercle vicieux de la vengeance en fait, parce qu'à partir du moment où tu te venges d'un truc, tu crées un désir de vengeance chez quelqu'un d'autre, et à chaque meurtre comme ça, c'est une nouvelle boucle qui se lance, et c'est Dina qui essaye enfin de couper ce truc-là.
Si ça se trouve, quand Ellie se barre à la fin, elle va aller retrouver Tommy pour lui casser la gueule, ouais. Parce qu'à cause de lui, elle a perdu Dina et Jesse.
Parce que le problème pour Tommy, pourtant il connaît tous ces gens-là, il connaît Jesse, il connaît tous les gens qui sont morts à cause de cette guerre sans fin. Lui, il a rien d'autre en fait. Dina, elle a construit autre chose. Tu vois, même Tommy, il te dit qu'il est plus avec
Maria.
Il est plus avec Maria, et c'est peut-être à cause de ça aussi, en partie.
C'est
peut-être le fait qu'il n'arrive pas à tourner la page et à passer à autre chose, alors qu'il est passé quand même à ça de la mort. Peut-être que ça a contribué à ce poids qui est sur tes épaules tout le temps pour la personne avec qui tu vis, au bout d'un moment, ça peut devenir trop dur à supporter. Donc peut-être que Maria, elle n'en pouvait plus, tout simplement, que lui continue à ressasser ces choses-là. Après, qui sommes-nous pour juger Tommy? Parce que c'est vrai que tu es un membre de sa famille de sang-froid comme ça, sous ses yeux, ça doit être difficile à encaisser. D'ailleurs, la fameuse interview de Druckmann dont je parlais tout à l'heure, à un moment aussi, il parle de ça. Ce qui, avant pendant la conception du jeu, il montrait qu'il s'était, vachement renseigné sur les meurtres d'un membre d'une famille, etc. Et quand la réaction des gens qui restent, en fait. Et souvent, t'as ce commentaire de genre bah si je le chopais je le tuerais, ou si, quand il y a la peine de mort, etc., ici le coupable, le meurtrier a été exécuté, et ben ils se rendent compte souvent, ces gens là que bah ça n'a rien arrangé en fait, ça a pas fait revenir l'être aimé, etc. Et donc c'était un truc, c'était, tu parles des marabouts, etc., revenir l'être aimé, et il voulait montrer via le jeu que finalement se venger comme ça de sang froid et purement et simplement, ça n'arrangeait rien. Cela étant dit, moi je pense que tu touches à mes enfants ou à ma femme ou à mes parents ou à ma sœur, etc., comme Liam Neeson, je te retrouverai et je te tuerai.
Même quitte à ne... de Last of Us.
Mais c'est ça.
Quitte
c'est
à
ça.
Ne pas à ne pas être soulagé après, mais il faudra que je fasse quelque chose.
C'est un peu ça. J'imagine la thématique vraiment principale du jeu, c'est qu'est-ce qu'on ferait si on était vraiment dans un dans un désir de vengeance aussi puissant. Et c'était Druckmann qui avait dit, lui, qu'il a, dans une autre interview il y a quelques semaines maintenant, que ce qui l'avait inspiré vraiment pour ce jeu, c'était le fait d'avoir vu quand il était enfant un lynchage devant lui et d'avoir ressenti une vraie haine vis-à-vis de ces personnes qu'avaient martyrisé un type comme ça. Je crois qu'il avait vu ça à la télé. Et c'est vraiment le truc, c'est qu'est-ce que nous on ferait et est-ce qu'on arriverait à garder un semblant de lucidité par rapport à tout ça. Et je pense qu'il doit faire référence, à mon avis, à pas mal de conflits qui ont lieu dans le monde depuis des années et des années, dont certains sont peut-être assez proches de lui d'ailleurs. Et j'imagine que il y a une part du message du jeu qui est centrée là-dessus. Peut-être que non. Hein, on lui posera la question peut-être un jour. Mais ouais,
le message, c'est clairement la violence, c'est pas bien, et la vengeance, c'est mal, tu vois. Mais après, nous, on a, en étant joueurs de Last of Us avec ses différents protagonistes, on a un point de vue que dans la réalité, tu n'as pas. Quand tu subis un meurtre dans ta famille ou des trucs comme ça, t'as pas le point de vue. Bah déjà souvent, on vit pas dans un monde où il y a des situations en plus équivalentes à celles vues dans le jeu.
Pas encore.
Mais oui, pas encore en tout cas. Mais t'as pas le point de vue de l'autre camp en fait. Tu sais pas exactement qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils vivent, etc.
Mais c'est tout l'intérêt des procès en général quand il y a ce genre de choses.
Là dans le jeu, on a le.
C'est vrai.
On vit à travers les deux camps, donc oui, on peut avoir une empathie, une compréhension et un pardon plus simple que ça ne serait dans la vie à situation équivalente.
C'est un truc qui a été reproché par une partie des joueurs, justement, ça a été de ne pas avoir à un moment donné le choix de ce que tu allais faire et d'être obligé finalement de réaliser les actions que Naughty Dog avait envie que tu réalises au travers de l'aventure. Et moi, même s'il y a des moments où j'aurais voulu épargner des gens, j'ai essayé, ça n'a pas marché malheureusement, je comprends la démarche parce qu'il y a un parti pris très engagé, il y a un récit, il y a un message derrière. Et pour le comprendre jusqu'au bout, eh ben, il faut que tu tues à main nue ces gens encore et encore. Et je ne trouve pas que ce soit une erreur ou un oubli de ne pas laisser le choix justement aux joueurs d'opter pour une direction.
D'autant, comme tu l'as dit, on voit les conséquences, notamment sur Ellie, une fois qu'elle a tué Nora et qu'elle revient tremblante, les yeux vitreux,
le corps meurtri.
On sait exactement ce qui se passe dans des conditions comme ça. Donc forcément...
Bah moi, je sortais d'un run de MGS5 où j'avais fait en sorte de fultonner tout le monde et de tuer,
d'endormir.
De tuer personne. Donc là, ouais, au début, j'ai évidemment essayé d'épargner, de voir si je pouvais endormir ou assommer ou trucs comme ça. Et tu te rends compte assez vite que c'est pas possible. Mais il y a que comme ça que le message du jeu passe, en fait. Parce qu'en fait, c'est curieux, hein, mais contrairement à plein d'autres jeux d'action fuck yeah où ils veulent que tu te sentes bien en accomplissant des actions héroïques et en faisant des kills trop classe, tout gun dehors, etc. Là, en fait, quand tu tues quelqu'un, ils ont envie que tu te sentes, et plus, on va dire, plus certains personnages que d'autres, mais ils veulent que tu te sentes mal. Et ça marche, c'est une sensation que j'ai, je pense, jamais ressentie dans un jeu vidéo.
Le moment où tout pète, ce moment un peu hollywoodien, à la fin de l'attaque de l'île, quand tu fuis justement avec Abby, avec une phase à cheval, etc. Et qu'à un moment donné, tu te retournes, tu vois les flammes, tu vois les gens qui sont morts, et tu te dis, mais putain, mais pourquoi ? Pourquoi il faut que tous ces gens se tapent dessus, que tout le monde crève ? C'est l'anti, justement, climax, méga boom de film d'action. C'est tout l'inverse, de voir tout péter, c'est catastrophique.
Dans toutes les thématiques qui sont abordées dans le jeu, on va essayer de les survoler rapidement. Vous trouvez que le jeu s'en sort bien à chaque fois ?
Moi, je trouvais que oui, personnellement. Enfin, il y a des sujets qui sont abordés de manière, des fois, assez succincte, finalement. Il y a des thèmes qui sont évoqués. Le fait que les gens soient réduits en esclavage, par exemple, tu le vois à la fin à Santa Barbara. C'est pas beaucoup plus développé que ça. Après, c'est à toi d'imaginer comment ça s'organise, les brimades, sans doute les viols qui vont avec, parce que moi j'imagine qu'Ellie, Abby s'est faite violer pendant sa détention à Santa Barbara. Même si c'est pas dit, tu sens bien que c'est le genre de truc qui pourrait arriver.
Disons qu'au moment où elle se fait capturer, il y a quand même des sous-entendus. Voilà. Et...
J'aurais peut-être aimé un peu plus d'explications sur les gens que tu affrontes à ce moment-là du jeu. Parce que là pour le coup, après, j'ai fini le jeu, pour tout vous dire, hier soir, très tard dans la nuit. À cette zone-là, j'ai dû arriver, il devait être 3h du matin à peu près. Et là, je suis passé un peu en mode Rambo. Je vous avouerai que l'infiltration, elle s'est un peu calmée. Mais à ce moment-là, j'avais encore plein de munitions, donc je me suis fait plaisir. Mais ouais, j'aurais bien aimé comprendre un peu plus, parce qu'on sait qui sont les Wolves, on sait qui sont les Scars, on sait qui est les anciennes Libellules, enfin les anciennes Firefly. J'aurais bien aimé savoir quel est ce groupe, quelle est sa motivation, ce qu'elle fait exactement, à part faire des esclaves, enfin choper des esclaves.
Bah, je crois que là, quand c'est un groupe qui est dans ce niveau-là, où ils te font des esclaves, qui te transforment eux-mêmes en clickers, qui foutent ensuite sur la plage, sur des poteaux, façon Ponce Pilate, je pense que un groupe comme ça, t'as peut-être pas besoin de savoir.
De toute façon, c'était pas le propos du jeu. Ouais. C'était juste un décor, on va dire, le décor du dernier acte du jeu. Mais
il y a une autre thématique, moi, qui m'a plu et qui est très 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 brièvement abordée aussi. Je sais pas comment vous l'avez pris, c'est cette brève histoire, justement. On a parlé juste avant des deux ados qui ont disparu, qui sont évoqués dans un flashback où Joel et Ellie vont chercher des cordes de guitare, je crois, après le set posé au refuge dans la montagne. Et on t'en parle vite fait, c'est réglé en deux phrases. Oui, ils ont disparu l'année dernière, on les a jamais revus. Et puis finalement, tu tombes dessus dans cette dernière pièce et tu comprends ce qui s'est passé. Et en lisant leurs lettres, alors ça te dit des choses sur le fait de se dire on se suicide tous les deux, mais en fait on n'y arrive pas. Voilà. C'est quelque chose que tu comprends vraiment. Mais surtout, ils disent qu'ils sont partis de Jackson parce qu'ils n'en pouvaient plus d'entendre des histoires sordides venant de l'extérieur et que, un peu comme des ados, ils sont partis à l'aventure en espérant aider un petit peu leurs prochains et donner un sens à leur existence. Et la réalité les rattrape, puisqu'ils expliquent que moins d'une heure après leur départ de Jackson, ils se sont fait choper par une horde, qu'ils se sont fait mordre et qu'ils se retrouvent du coup planqués là en attendant malheureusement d'y passer. Et c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé parce que t'as plein de petites choses qui t'expliquent comment le monde s'est reconstruit. J'ai trouvé la scène du stade fantastique à ce niveau-là, parce que tu découvres un environnement que tu ne soupçonnais absolument pas. T'as entendu parler du stade quand t'étais avec Ellie, mais tu n'imagines pas ce que c'est en termes d'organisation, les gens qui peuvent y travailler, la manière dont c'est régi, jusqu'au fait que t'occupes un appartement en fonction de ta place dans la hiérarchie paramilitaire, avec une jolie vue pour Ellie et Manny, si je dis pas de bêtises. C'est avec lui qu'elle vit. Et tu comprends comment la société se réorganise d'une autre manière. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et c'est une thématique qui est surtout narré à travers les décors, qui est pas plus développé que ça sur le plan purement narratif, des dialogues,
comme à Jackson aussi, hein.
Voilà, oui, comme à Jackson ou dans les rues, tu vois que c'est le troc qui est mis en avant, tu vois que le boucher découpe ses carcasses sur un bout de bois comme il peut. C'est plein de petites choses qui sont pas les thématiques principales du jeu, mais qui profitent de cet environnement assez complexe et assez différent pour délivrer un message aussi. J'ai trouvé ça vraiment passionnant.
Tu gagnes beaucoup en faisant l'effort de trouver les papiers disséminés un peu partout, parce que en fonction de là où tu te trouves dans le jeu, les lettres que tu trouves n'ont pas été écrites par des membres du même groupe de personnes. Et des fois, tu vois des échanges entre voisins, ils se transmettent des mots.
T'as un type qui parle de ses enfants, qui essaye de convaincre justement un mec d'une autre communauté, lui dire « Mais écoute, depuis qu'on est parti à Jackson, les enfants construisent des trucs, le soir ils rentrent, ils ont des choses à raconter, tu devrais venir, c'est peut-être pas ce que t'attends, mais ça donne un sens à leur existence, etc. Enfin, » et tu comprends tous les trucs qui se jouent et tu te dis que si ça arrivait dans la vraie vie, il y aurait ce genre de conversation, il y aurait des dialogues comme ça, des gens qui essaieraient de convaincre d'autres par le dialogue ou par la force de rejoindre telle ou telle communauté.
Mais tu vois aussi, à un moment tu rentres dans un appart totalement lambda et t'as un mot et tu dis « Ah, je savais pas qu'il y avait encore quelqu'un dans l'immeuble, tenez, prenez un morceau de pain, etc. » Ah, c'est trop sympa, venez, moi je vous donne une bouteille de vodka. » Et tu vois, il y a une sorte
de correspondance, de complicité
qui se lance comme ça. Et tu te rends compte aussi que peu importe le groupe, y a des gens qui ne sont pas totalement embrigadés ou totalement insatisfaits, que ce soit chez les Scars ou chez les Wolves, etc. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre comme ça, qui ont envie d'essayer de soit de s'enfuir, soit d'essayer autre chose, mais soit ils peuvent pas parce qu'ils ont peur des représailles ou peur d'une manière générale. D'autres ont essayé de s'enfuir et ça n'a pas forcément marché. Tu vois, à l'intérieur même des groupes, c'est pas tout noir ou tout blanc, tu vois, c'est vraiment...
C'est des sommes d'individualité, donc avec des motivations et des points de vue différents.
T'as pas vraiment de camp des gentils, de camp des méchants, et même à l'intérieur de ces camps-là, il y a encore des sous-divisions, etc. Et tu parles du couple qui a voulu s'enfuir, etc. Owen, c'est un peu ça aussi. Il a un peu envie il en a marre d'être chez les Wolves, de toute cette pression et des choses qu'on lui demande de faire non-stop, etc. Il a envie de partir, il a entendu une rumeur de l'existence d'un camp de Firefly, et donc bah, il va essayer de, lui son but c'est d'essayer de les retrouver. Bon, on sait que ça se passe pas du tout comme ça, mais
c'est Kenny de cet épisode, c'est le mec qui veut toujours prendre le bateau.
De quoi?
Kenny de Walking Dead. Owen parle souvent de son bateau. Enfin, tu sens qu'il y a cet attachement, ce côté un peu récurrent.
C'est le symbole de la
le jeu
de liberté.
Dead, hein.
J'ai fait que la première saison, donc je.
Oui, mais il est dedans.
Il est dedans.
Je me souviens plus.
Et toi, Plumeau, qu'est-ce que t'as bien aimé en termes de thématique? Parce que
on n'a pas eu ton point de vue. Tout me paraît à chaque fois très, enfin placé de façon naturelle, que ce soit quand c'est un peu étoffé ou quand c'est juste quelques mots. J'allais vous poser la question, moi, savoir si justement, comme beaucoup d'un, enfin beaucoup, on va dire les internautes qui ont la voix qui porte le plus, vous pensiez que le jeu s'amusait à surfer sur des tendances pour se faire bien voir, l'homosexualité par exemple. Est-ce que vraiment c'est quelque chose sur laquelle on a envie de s'attarder quand on joue à The Last of Us? Est-ce qu'on trouve que c'est trop? Je pense que pas du tout.
Bah, à part,
je pense que il y a, enfin, j'ai envie de dire même, c'est naturel.
Oui, c'est ça, c'est naturel.
Il y a rien d'absolument choquant, à part le fait que c'est la première fois qu'effectivement on a une héroïne homosexuelle qui est héroïne d'un jeu vidéo. Mais si je ne m'abuse,
mais on le savait,
en dehors des jeux BioWare, évidemment.
What's new? Enfin, depuis Left Behind, on connaît son orientation sexuelle. Bon, bah voilà. Enfin, ok, tu le sais, c'est donné. On n'en parle plus. Je veux dire.
C'est pas utilisé comme argument marketing. Donc, t'as pas l'impression qu'il y a des arrière-pensées derrière ce truc-là, parce que ils en parlent même pas au fond, finalement. Si, enfin, il y a des quand il y a des flashbacks avec Joel et que Joel dit ah, alors avec Jesse,
il me parle beaucoup de toi.
Ça a l'air de bien se passer. Et là, tu sens sa gêne parce que elle est pas vraiment intéressée par Jesse de cette manière-là. Mais bon, c'est presque plus mignon qu'autre chose. C'est les genres de dialogues un peu gênants entre un père et son enfant ado. Tu vois, c'est le fait que Ellie soit gay. Finalement, ça n'a même pas d'importance. Le seul moment où c'est utilisé scénaristiquement, c'est quand t'as le flashback de la scène du bal, où t'as le boucher ou le gérant du bar qui la traite de Gwyn.
En disant voilà. Oui, c'est un événement familial.
Voilà. Mais tu sais, c'est juste montré de cette manière-là.
Mais c'est pareil, c'est intéressant parce que ça te montre qu'il y a encore.
Il y a des gens comme ça.
Il y a encore des arriérés entre guillemets qui trouvent ça scandaleux dans ce contexte, dans la ville de Jackson. Et en plus, ça arrive très tard et c'est un bout qu'on n'avait pas vu.
On devrait peut-être parler des scènes qui nous ont le plus
ému
plus tard, mais personnellement, rien que d'y repenser, cette scène donc est rallongée par rapport à celle qu'on avait vue à l'E3, elle m'a mais pulvérisé par ce qui se passe juste après le baiser entre Dina et Ellie, où justement donc on a c'est Seth, je crois, qui intervient, qui dit on n'a pas besoin de Gwyn ici, il y a des enfants, cassez-vous. Et Joël très paternaliste, qui réagit, je pense, comme beaucoup de parents feraient si on faisait chier leur enfant, en disant quoi, il y a un souci, qui commence à vouloir s'interposer, et Ellie qui lui fait comprendre que bah désolé, je sais me défendre tout seul, j'ai pas besoin de toi pour ce genre de truc. Et la tête de Joël quand elle lui dit ça, tu vois Joël qui est vieux, qui est fatigué, qui se dit ah, j'ai peut-être fait un truc bien aujourd'hui, et là qui se prend ça dans la gueule alors que bah, tout ce qu'il voulait, c'était encore aider Ellie, quoi. Tout simplement, ce moment-là où tu le vois comme ça, mais vraiment, j'étais mais effondré. J'étais dans mon canapé, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est dégueulasse. Ils se sont quittés dans ces termes-là, quoi.
C'est, voilà, et c'est ça qui est le pire, c'est que ça te fait repenser, du coup, ouais, à la scène du début, et où tu comprends encore plus sa colère, parce qu'ils se sont séparés après cet échange-là, puisque... elle l'a pas revu en fait.
Bon, après, évidemment, on va comprendre qu'ils se sont revus après le bal, Dieu merci. Mais quand tu t'imagines, quand tu te mets dans la position d'Ellie, la dernière fois que j'ai vu Joël, c'est je l'ai engueulé alors que lui il faisait une bonne action. Et tu te dis, toi en tant que joueur, putain, elle abuse quand même. Joël, c'était quand même un mec sympa. Et que tu vois Joël qui a l'air vraiment en bout de course, quoi.
Il a le souffle court quand il parle. Ouais, il a une voix très fatiguée.
C'est l'ensemble de tous ces trucs-là en même temps, pour moi, c'est dévastateur.
Et parce que tu l'as vu avant. Déployer mais des trésors d'amour pour l'emmener au musée quand il déjà la partie des dinosaures et puis après la partie sur la conquête spatiale, le pod, la capsule dans laquelle elle rentre, et il a dégoté une cassette avec le launch, enfin le compte à rebours d'Apollo 11, etc. Enfin, ça c'est pareil, il joue le mec hyper stoïque, hyper je sais pas ce qu'on va trouver, bon, on verra machin, alors qu'en fait tu te doutes bien qu'il a travaillé comme un fou pour trouver ce truc-là, pour l'emmener au bon moment, etc. Et ouais, de se reprendre tout ça dans la gueule, genre, ben voilà, enfin, c'est j'ai plus besoin de toi, papa, je peux me débrouiller, quoi. Fous-moi la paix, laisse-moi vivre ma vie. Et moi, je suis comme toi, en voyant sa tête quand il se prend ça dans la tronche. C'est presque plus dur que
n'importe quelle autre scène du jeu.
Que ces meurtres que t'as commis, que ces gorges que t'as tranchées, etc. Parce que, putain, tu blesses au plus profond de lui un type qui t'est si cher. C'est terrible.
Ça contribue à mon ressenti global vis-à-vis du personnage d'Ellie dans cette suite, quoi. C'est là, un peu l'adolescente en pleine crise, un peu pénible.
C'est ce qu'elle est, hein.
Et là où il y a un travail qui est formidable de la technique de chez Naughty Dog dans ce jeu, ce sont sur les mimiques de visage et les réactions dans les yeux. Parce qu'on sait que les graphismes des jeux vidéo gagnent en réalisme et en sophistication, mais on est toujours borderline uncanny valley dans les yeux un peu vides ou qui savent pas trop regarder. Et là, il y a des mouvements de pupilles et tout tellement subtils dans The Last of Us, parfois accompagnés. Tu sais, des fois, quand t'essayes de dissimuler une émotion, mais que tes lèvres te trahissent.
Des micro-réactions.
Genre, elles bougent un peu sur le côté ou une petite moue discrète.
Tu te fais mort un tout petit peu, ouais.
Là, il y a plein de réactions comme ça, et surtout dans des scènes avec Joël et Ellie, justement. Et où les deux
le fait qu'elle se touche la nuque ou ce genre de choses, il y a plein de petits signes qui transparaissent.
Les deux sont tellement expressifs dans ce jeu, et ça m'a vraiment marqué aussi.
Bah, c'est ce qui me fait dire aussi que quand on a cette succession de scènes, cette succession de moments qui rajoutent à chaque fois de la profondeur, de la richesse. Chaque fois des nouvelles couches à tous les personnages. Je pense pas que à Ellie et Joël et Dina. Il y a évidemment Abby. Il y a aussi les personnes qui sont avec elle. Je veux dire Manny par exemple. C'est un personnage que j'aime énormément dans le jeu. Bon, qui meurt d'une façon mais pareil effroyable. J'étais dégoûté.
Réaliste.
Mais je le trouvais super sympa.
C'est Tommy qui lui colle.
Ouais, c'est Tommy. Ouais.
En rentrant dans cette salle où elle se font
face. Il prend une balle comme ça. J'étais dégoûté. Mais merde, Manny était cool. Tu vois, il était sympa, je veux dire, pourquoi lui ? Et
ça aussi, la dureté du jeu, c'est que les scènes, les morts de beaucoup de personnages très sympathiques, elles sont pas cérémoniales ou trucs comme ça. C'est genre, il rentre dans la pièce, bam, il prend une balle dans la
brutalité, voilà.
Jesse, comme il meurt aussi, c'est
assez violent aussi.
En fait, on t'apprend tout au long du jeu que personne n'est sauf, quoi. Enfin, aucun personnage n'est au-dessus d'une mort potentielle. Et ça joue. Et Manny, Jesse, tout cela, et même Tommy au début, moi, enfin, c'est pareil, quand tu découvres qu'il est vivant, c'est surprenant parce que
ça a été une surprise pour moi aussi, ouais.
Parce qu'il prend bien cher, il prend bien cher aussi. Bah, d'ailleurs, ça se voit, hein, mais c'est
marrant. Tout ça pour dire que tout ça, quand on entend des critiques qui disent que le jeu est trop long, qui peut-être prend trop son temps ou traîne en longueur, tout simplement, moi, quand je repense à chaque fois à toutes les scènes dont on vient de parler, plus d'autres, dont certaines m'ont particulièrement touché aussi. Est-ce que vous pensez aussi que le jeu aurait gagné à être dégraissé, peut-être, entre guillemets ?
Juste avant de répondre à ça, je vais ajouter juste une scène qui m'a vraiment bouleversé pour le coup. C'est la scène de l'aquarium avec Ellie qui déboule et qui massacre Owen et Mel. Owen qui gargouille, qui a le couteau dans la gorge, etc., qui essaye de pointer du doigt en tremblant, en train de lui expliquer que Mel est enceinte sans arriver à le dire, et que tu le découvres au moment où le corps de Mel se tourne, que sa veste s'ouvre, et que tu vois son bide. Là, face, tu vois, le coup de poing dans le ventre que j'ai pris pour Joel, je l'ai ressenti puissance 10, parce que c'est de ta faute. Tu viens de buter une femme enceinte qui t'avait rien fait. C'est j'étais vraiment vraiment pas bien,
ça se comprend.
Et elle prend un coup quand même sur le moment. Tu vois que voilà.
Oui, c'est elle vomit.
Puis après Jessie et Tommy viennent la chercher, elle est pas encore remise, elle sait pas où elle est.
Là franchement, je j'avais jamais ressenti ça dans un jeu vidéo vraiment, et je t'avouerais que j'avais pas vraiment envie de ressentir ça. C'est totalement cohérent avec le message du jeu et avec ce qu'ils essayaient de faire. Mais je me passerai volontiers de ce genre de sensation quand je joue. Maintenant, pour parler de la longueur, je l'ai trouvé un peu trop long. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir toutes ces scènes marquantes, etc. Et là, c'est purement du gameplay. C'est juste qu'il y a parfois des phases de combat à répétition où tu pourrais en couper une par-ci par-là, dégraisser un petit peu le truc, et ça marcherait tout aussi bien, parce que le fait d'être obligé de ramper pendant 3 heures dans l'herbe pour pas te faire repérer, zigouiller 4-5 types, continuer d'avancer, tu recommences ça, etc. Je pense qu'il y a quelques scènes de ce type en trop, surtout que le gameplay varie pas en fait de trucs. Là, on part vraiment dans une discussion purement jeu vidéo.
Oui, bien sûr.
Mais je pense que ça aurait pu être dégrossi un petit peu à ce niveau-là, sans que ça nuise à la narration.
Thomas,
un
avis là-dessus ?
Je te sens parti pour donner.
Moi, je pense que il faut prendre. Faut prendre en compte l'idée qu'il y a forcément un nombre en face de toi pour que ce soit pour les combats et pour l'infiltration. Donc, faut bien essayer de. Il peut pas faire comme dans d'autres jeux, d'autres survival ou d'autres jeux d'action du type. C'est ce que je pense. Où tu peux espacer vraiment beaucoup les combats et à la limite mettre juste 4 personnes ou 5 dans l'arène et après reprendre ton chemin. Je pense que rythmiquement déjà. Il fallait le faire, parce qu'en plus ils se sont permis de faire un design de chacune des arènes entre guillemets qui est quand même à chaque fois ultra bien foutu, qui permet vraiment que ce soit de l'infiltration ou d'y aller comme un gros bourrin. Tu peux faire les deux, et même un bourrin très rapide. On a vu tous ensemble ce joueur de légende qui fait des trucs absolument complètement ouf à base de. Je sais même pas comment il
fait. Chorégraphie.
Il fait des chorégraphies.
De glissade, et qui a déjà tout notre respect, évidemment.
Ah ouais, le mec, il fait du John Woo avec The Last of Us 2, un truc que tu peux pas. Enfin, t'as du mal à l'imaginer au départ.
J'ai essayé de faire la glissade en arrière là, hier pour le jeu, j'ai pas réussi.
Je l'ai fait devant Traz.
Ah ouais, t'as réussi ?
Bah oui,
j'ai pas trouvé comment.
Tu l'as fait en vrai, tu veux dire ?
Non, je l'ai fait dans le jeu. Je l'ai montré à Trace vite fait, mais t'étais là d'ailleurs.
Je regardais pas.
Ouais, ça m'étonne pas. Mais je pense que pour le bien du jeu, oui, il fallait procéder de cette façon. Mais j'ai pas ressenti de vraie longueur. En plus, je trouve que l'évolution des armes et les gains de compétences permettent d'avoir une approche qui peut aussi changer avec le temps. Donc du coup, j'ai vraiment. Pourtant, je pense que Thomas savait que j'étais pressé quand j'y jouais.
J'en suis où ? Il me reste combien de temps ? Je suis là, il se passe quoi après ?
Parce que je jouais sur son compte, voilà. Donc, et que j'avais pas envie de squatter son compte pendant toute une semaine de plus. Et j'ai jamais ressenti de moment où je me disais « Ah là, je vais peut-être zapper ou passer ou autre. » Et je me suis pas... Pourtant, j'ai connu quelques échecs dans le jeu, mais des moments où il a fallu que je recommence des séquences complètes, alors que bon, c'était un peu relou. mais j'ai pas ressenti ça, non.
Après, c'est peut-être aussi parce que moi, j'ai essayé de trouver tous les objets cachés dès mon premier run. Donc moi, je passais vraiment au peigne fin. J'ai pas réussi, hein, je précise, j'ai pas réussi. Parce que certaines cachettes sont vraiment vicieuses. Je restais vraiment très longtemps dans chaque décor. Je faisais les moindres recoins, des allers-retours, des zigzags. Donc ça a vachement augmenté mon temps de jeu. Donc ça a peut-être joué sur mon ressenti.
C'est exactement ce que Poufy disait aussi.
Ça a peut-être joué sur mon ressenti aussi, mais...
Vous l'avez fait un peu de la même manière et du coup, ouais, je pense que le rythme en prend forcément un petit coup. Parce que, en termes d'enchaînement de scènes, j'adore jouer, j'adore me faire de longues sessions, mais là, plus que presque dans n'importe quel autre jeu, ça t'invite tellement à continuer. Il y a une telle souplesse, il y a une telle continuité de ce qui se passe. Et même quand t'as des cuts, des flashbacks, donc que l'action s'arrête quand même pour se décadrer, revenir à un autre moment, je sais pas, t'as continuellement envie d'aller de l'avant, de découvrir ce qui se passe, de voir où l'histoire va t'emmener.
C'est pour ça que j'ai joué jusqu'à 4h hier soir.
Et ouais, j'avais en soi jamais envie de lâcher la manette. Je le faisais parce qu'il y a des besoins physiologiques comme dormir, etc. Enfin, même si Traz, a priori, ouais. Traz est au-dessus de tout ça maintenant, de là où il nous regarde.
Il a atteint un nouveau degré de conscience,
de supériorité, mais moi je l'ai trouvé tellement bien foutu, tellement continu. Il y avait ce côté un petit peu God of War, c'est pas un plan séquence de Last of Us Partout, mais il y a cette espèce de fluidité constante qui te donne
t'es
toujours
dans un
envie
élan, quoi,
ouais,
tout simplement.
Qui, même s'il y a des séquences, tu vois qu'elles se terminent, tu refermes une porte, tu la bloques, tu dis ok, la scène de combat ou de fuite est terminée, et pour autant t'as pas envie de t'arrêter, t'as envie de continuer véritablement. Et il y a sans doute quelques petites arènes qui auraient pu sauter sans que ce soit vraiment dommageable, mais au global, moi, je l'ai trouvé extrêmement bien équilibré et bien rythmé.
Après, un petit truc qui a joué aussi sur ce ressenti-là, c'est que j'ai assez vite vu la limite du côté où on personnifie tous les PNJ que tu vas tuer. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tous un nom individuel. J'ai déjà tué plusieurs personnes qui avaient exactement le même nom, plusieurs chiens qui s'appelaient pareil aussi. En plus, physiquement, les PNJ humains, ils n'ont pas un nombre de modèles.
Certains wolves se ressemblent. Oui.
Ils se ressemblent pas mal. Parfois, tu vas en tuer deux ou trois à la suite qui ont quasiment la même tête. Donc ça a joué un peu sur le fait que tu as un peu l'impression de faire de refaire la même chose plein de fois. Mais je pense que si j'avais fait plus en ligne droite et que j'avais pas essayé de chercher tous les documents, tous les trucs, ça aurait peut-être joué. Mais d'un côté, je suis content d'avoir trouvé tous ces documents parce que je trouve que ça étoffe vachement l'univers et ça aide ta compréhension des enjeux et de la manière de vivre de tous ces gens, etc., etc.
Bon, bah écoutez, avant de passer à la question finale, je propose qu'on s'attarde un petit peu sur, on va dire, l'autre élément qui peut peut-être rendre The Last of Us Partout assez exceptionnel, c'est sa mise en scène, évidemment. Sa mise en scène globale, son acting, la façon dont il a été écrit, dont il a été tourné, parce que là on peut parler de tournage oui. dans un cas comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Thomas?
Tu n'as pas de mots.
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que c'est pas ce qui s'est fait de mieux jusqu'à aujourd'hui dans le domaine?
Moi, je
tout
pense
simplement.
Honnêtement que si, surtout en le refaisant, je me permets de m'arrêter du coup sur même encore plus de détails. Et Romain parlait avec beaucoup de justesse des micro-réactions, des regards qui des fois disent plein de choses. Et c'est assez fou d'avoir atteint un tel niveau. Moi, je suis pas partisan de dire il faut que le jeu vidéo ressemble au cinéma ou devienne du cinéma pour atteindre un nouveau palier machin. Mais là, il y a une telle prise en compte. C'est compliqué en fait d'avoir une mise en scène aussi fine dans un jeu parce que tu peux toujours toi-même maîtriser un petit peu la chose, être ton propre mini-réal sur certains trucs. Et là pourtant, ils arrivent toujours à trouver des cadrages, à trouver des oppositions dans les backgrounds qui scindent des scènes, qui te guident aussi beaucoup dans ta progression, je veux dire même en termes de pure mécanique de gameplay. C'est pas un jeu avec des grosses flèches rouges ou des indicateurs machin, non, tout se fait logiquement parce que la configuration des décors attire ton regard à un tel endroit, la lumière t'éclaire sur tel ou tel truc, et en plus ça fait pas complètement cheaté, c'est pas ah bah comme par hasard il y a un trou qui fait que le soleil passe et éclaire la montre qui traîne par terre machin, non, tout est crédible et tout est cohérent. Et s'il est si bouleversant, c'est parce que les personnages sont tellement, tellement humains, enfin, dégagent tellement de choses. Si tu génères autant d'empathie, c'est parce qu'il y a quelque chose de si profond dans tous ces personnages que tu croises que tu t'y attaches plus, je pense, que n'importe quel autre.
Et c'est diablement bien joué en VO. Là, c'est de l'acting de haute volée, je trouve, pour un jeu vidéo.
Et il y a plein de détails. Je refinis juste ma parenthèse, mais je suis d'accord sur la prestation. Il y a en plus des choses, quand tu les vois, tu dis ça a été réfléchi. On parlait de Take On Me, par exemple, tout à l'heure. Quand elle la chante devant Dina, l'aventure commence, entre guillemets, t'es encore au début de Seattle. Donc, il y a une espèce de mini-entrain où elle y met quand même un petit peu d'elle-même pour faire une mini-performance face à elle. Par contre, d'autres moments, quand t'arrives, je crois, dans le théâtre, où elle se met à jouer toute seule à un moment donné, bah là, t'as passé une journée à buter du monde, t'es crevé, t'es ressorti du métro et tout. Bah là, elle est beaucoup moins impliquée dans la manière dont elle joue. Tout de suite, il y a plein de petites choses comme ça qui sont crédibles parce qu'elles ont été véritablement réfléchies. Tu ne joues pas de la guitare comme un Gypsy King après une journée, avoir crapahuté partout, avoir échappé à la mort.
Ah, j'avoue qu'Eli qui se met à chanter Bamboléo dans, non, mais, dans Seattle.
Mais même au niveau de la voix, tu sais qu'elle peut chanter parce que tu l'as entendu déjà et tu l'as vu dans des flashbacks, mais il y a certains morceaux qu'elle joue après, même toute seule, où c'est vraiment un tout petit filet parce que elle a plus le cœur, elle a pas le cœur à ce moment-là d'y être à fond. Et plein de choses comme ça où tu te dis, mais quelqu'un a dû y penser, quelqu'un a dû réfléchir au contexte, à vraiment c'est le boulot d'acteur de se mettre dans la peau d'un personnage à un moment donné, mais là, tout est juste. Je trouve que du début à la fin, tout est juste.
Ouais. Après, je sais pas si dans vos second run respectifs, vous jouez en français ou vous êtes encore en VO.
Toujours en anglais.
Mais je serais curieux, pour le coup, comme je l'ai fait qu'une fois pour l'instant et que c'était en VO, je serais curieux de voir si l'impact de l'acting est aussi fort en VF.
Adeline Chetaï est une excellente comédienne.
Oui, mais ça fait pas tout, faut être bien dirigé aussi. Enfin,
bien dirigé, faut que la localisation soit suffisamment subtile et on sait que les références ou certains trucs passent parfois complètement au-dessus de la tête des traducteurs. Donc il y a plein de choses qui jouent. Et en plus, il y a certaines expressions très idiomatiques en anglais qui sont difficilement transférables en français. Donc il y a plein de choses qui peuvent jouer aussi. Mais ce qui est marrant, tu parlais de la violence, de la mise en scène, etc.
Alors je parlais de la mise en scène, effectivement, du jeu d'acteur et tout, et j'allais aborder l'idée que il y a eu beaucoup de débats, de déclarations, autour de la violence, qui était peut-être un peu trop présente, un peu trop crue, un peu trop graphique dans le jeu. Une fois qu'on connaît le jeu et qu'on a justement, on va dire, expérimenter tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, finalement, est-ce que c'est pas complètement secondaire? Et est-ce que c'est pas, au-delà du fait que c'est secondaire, est-ce que c'est pas plutôt l'accessoire, on va dire, l'accessoire indispensable pour que le jeu fonctionne vraiment?
C'est plus comme ça que je le perçois plutôt que de dire que c'est secondaire.
Enfin, c'est pas un problème, j'allais dire, secondaire. Mais c'est même pas un problème.
Tu vois la différence entre un film à la Die Hard par exemple, ou un Rambo, où là tu vas tout gun dehors, ça tue, il y a du sang, etc. Les mecs, ils se prennent une balle, ils se jettent par terre, ils tombent, etc. Là, la violence, elle est encore plus exacerbée que ça. Elle est vraiment mise en scène au sens où tu vois pas une balle qui arrive dans la tête hors champ, tu vois, ou en contre-jour, ou truc comme ça. Tu vois la balle qui arrive dans la tête avec l'impact que ça a sur le corps, etc. Et je trouve que ça sert vachement le récit et le message qu'on essaye de te faire passer dans le jeu. C'est pas de la violence, là, c'est pas de la distraction. C'est quelque chose qu'on te présente comme étant mal, finalement, et que il faut.
Oui, parce
qu'on
se souvient quand même qu'à l'époque du trailer TGS avec. Du coup, j'ai oublié son nom, donc la sœur de Lev.
Aya,
voilà. Quand elle se faisait péter le bras dans ce trailer. Il y avait eu une espèce de levée de bouclier d'un seul coup, genre « Oh là là, mais c'est pas possible, on arrête avec la violence, c'est insupportable. »
D'où le risque et le danger de juger les choses hors de leur contexte. T'as besoin de l'image d'ensemble sur la chose pour comprendre ce qu'on essaye de te dire et de ce qu'on essaye de te montrer, etc. Je pense que l'impact de The Last of Us Part 2 serait vachement moins important sans cette violence, ou dans une version censurée qui bouge la caméra pour pas que tu vois certaines choses ou des trucs.
C'est la violence de son univers aussi, hein, d'ailleurs.
On en revient à ça, que ce soit le trailer du TGS dont tu parles, de la PGW, oui, 2017, ou même cette espèce de polémique à la con qu'il y a eu sur le rôle de Lev. Je l'ai découvert après coup, mais un personnage transgenre qui était une fille destinée à être mariée dans sa confrérie.
Moi, je l'ai découvert dans le jeu avec la phrase
gourouesque. Des gens se sont insurgés sur le net en disant mais vous comprenez pas, on peut pas faire souffrir les personnages trans, etc. Et là, t'as envie de dire les gars, vous avez vu l'univers dans lequel ça se passe ? Les gens meurent, se font torturer, violer, des membres qui sautent comme ça pour un rien, enfin, torture psychologique, mentale, enfin, c'est pas un conte de fées, tout le monde en chie dans The Last of Us. Je veux dire, c'est la définition de cet univers, on l'a dit, les personnages peuvent partir n'importe quand, parce que tu rentres dans une pièce, t'as pas fait gaffe, boum, une balle dans la tête et t'es plus là, bah c'est la réalité de cet univers, et du coup, comment ce serait possible que tu n'aies pas de violence dans ton aventure ? Dans ce contexte qu'on connaît, pour y avoir quand même passé déjà quelques heures avec le premier épisode, où tu croises pas beaucoup d'enfants de cœur, quoi, déjà dans le premier.
Et c'est pas du tout de l'acharnement contre Lev, en plus, c'est juste que comme tout le monde, voilà, c'est même mieux. C'est même mieux, trouve, pour le personnage qu'il soit traité exactement comme tous les autres et qu'il n'y ait pas de spotlight braqué sur lui sous prétexte que c'est un personnage transgenre. Et donc, pour le coup, il est dans sa bulle protectrice où on peut rien lui arriver.
Encore une performance à saluer, la performance du petit Ian Alexander, donc.
Ah, moi j'ai adoré.
Qui est un des acteurs de la série annulée, malheureusement annulée, The OA, que vous avez pu découvrir sur Netflix. Encore un bon petit acteur aussi. Vraiment, il fait partie des personnages. Des personnages largement les plus importants du jeu.
Oui, mais parce qu'en fait, c'est un pont qui t'ouvre sur cette communauté que tu vas très peu croiser au final. On sait peu de choses de la secte, de qui était cette nana qui les a endoctrinés, machin. Lui, c'est un peu la petite lucarne par laquelle tu vas regarder pour comprendre un petit peu de loin ce qui se trame à l'intérieur de ce groupuscule. Sans lui, tu sais pratiquement rien, à part qu'ils idolâtrent quelqu'un et qu'ils ont un mode de vie un peu particulier, quoi. Il est vraiment essentiel, et moi j'ai adoré ce côté décalé où Ellie passe son temps à s'étonner des préoccupations des enfants de son âge de l'époque d'avant. À un moment donné, elle dit mais vraiment, on lisait ce genre de magazine, les gens se préoccupaient de ça.
Il y a un Comic-Con aussi à un moment là, devant le Comic-Con, et faire un festival pour ce truc là.
Tandis que Lev, il est encore plus déconnecté parce qu'il a vécu vraiment dans un vase clos. Et en plus, du coup, il interroge des choses que toi tu connais, mais il t'oblige à y réfléchir parce qu'il les voit d'une certaine manière très différente auxquelles t'avais pas forcément songé. Et ça rend les conversations, je trouve, entre Abby et lui hyper intéressantes.
Surtout qu'il il apprend des choses à Abby aussi, oui. Et il lui, en utilisant ses préceptes, enfin les préceptes religieux qu'on lui a inculqués depuis sa naissance, et ben il développe le personnage d'Abby, il lui apprend, quand il lui dit c'est dans la douleur ou dans la faiblesse que la force se révèle ou un truc comme ça, ça c'est quelque chose, même si elle croit pas dans la religion des Scars, c'est un truc dont elle se sert par la suite pour se
s'élever un peu.
Ouais, voilà, pour se sublimer, le truc comme ça.
Donc. Et elle, au contraire, elle essaye d'injecter un peu d'encouragement dans ce petit garçon. Il y a cette scène, ce dialogue à Santa Barbara, où c'est Lev qui découvre justement la descente d'escalier cachée derrière une bibliothèque. Et il dit, j'ai été utile pour une fois. Elle lui dit, mais tu es toujours utile. Tu as toujours raison dans ce que tu dis. Et tu sens qu'elle essaye de l'extirper de sa condition avec cette remise en cause permanente du tu fais le mal. Elle aussi essaye de lui apporter véritablement un truc pour l'aider à grandir et à devenir quelqu'un d'autre.
Bah oui, parce que ses congénères l'ont toujours mis un peu à
c'est ce que
part,
tu comprends. Et c'est ce que tu comprends, voilà, en sous-texte au fur et à mesure.
Il faut bien tout écouter, en fait. C'est ça qui est important.
Bah, maintenant qu'on a bien tout écouté. Et tout bien parler aussi, le jeu au final, l'expérience The Last of Us Part II, qu'est-ce que vous en retirez? Vous en retenez?
La violence c'est mal, la vengeance c'est mal.
Parfait.
Faisons-nous des câlins, soyons gentils les uns les autres. C'est dur. Voilà, moi ce que j'en retiens, c'est que c'est dur. J'ai morflé par moments. Et tu vois, c'est Je suis un peu bébête pour ça. Moi, quand tu me demandes de regarder, de choisir un film ou une série, etc., j'ai assez naturellement tendance à me diriger vers la comédie, tu vois. Moi, les drames et les trucs comme ça, c'est quelque chose que j'évite parce que je trouve que le monde tel qu'il existe réellement est suffisamment dur pour que dans mes loisirs, j'ai...
T'as envie d'un peu de déconne.
Voilà, j'ai pas envie de me mettre devant des trucs encore plus durs qui vont me plomber le moral encore plus. Donc là, j'aime beaucoup The Last of Us, donc j'avais envie de faire la suite comme tout le monde.
sur le plan comique, c'est pas la meilleure.
Non.
Oh, il y a des petites références sympas quand même.
Oui, bien sûr.
Je veux dire, quand Ellie, trouve une carte et que Dina lui fait « Ah, t'aimerais avoir quoi comme super pouvoir ?»« Bah, j'aimerais bien être invisible. » Bah, désolé, mais j'étais obligé de rire à ce moment-là.
Au niveau du premier, ouais.
Voilà, et quand elle trouve une palette aussi en allant au musée, qu'elle fait « Hey Joël, tu me fais faire un petit tour ?»« Ah non, c'est bon, on a passé l'âge. » Là aussi, t'es obligé de te marrer dans des cas comme ça. Bon, après, c'est vraiment des petits easter eggs,
voilà,
quoi.
Tu te poiles pas pendant toute une scène dans le jeu. Donc,
un jeu à s'en taper les cuisses, Gameblog.fr. Ouais, ouais.
Ou aussi, la situation de la... quand t'arrives dans la zone ouverte de Seattle, où tu vas dans la banque, tu retrouves une fourgonnette un peu plus loin, que tu fais la connexion entre les deux, truc que toi t'avais pas vu, Thomas,
et tu m'as montré pendant le live.
Tu trouves toutes les lettres, tu te rends compte qu'il y a des mecs qui ont fait un braco, qui a failli marcher le jour de l'outbreak. Tu te dis, ah putain, ça aussi c'est drôle.
Oui, mais là encore, c'est tellement minuscule par rapport à l'ensemble de l'histoire qui te met coup sur coup pendant 30 heures. Tu te prends des patates comme rarement tu t'es prise dans un jeu vidéo. Donc ouais, c'était un peu dur. Après, on a tous des thématiques qui nous touchent plus ou moins, mais c'est un peu bête, mais les histoires de paternité, les femmes enceintes, tous ces trucs là moi ça me touche particulièrement. Et
les chiens,
les chiens et tout, enfin franchement, moi, ça a été éprouvant, The Last of Us Part 2.
Ça va, on les cuisine pas, donc c'est bon.
Encore une idée pour le 3.
Un peu les mangeurs de chiens.
Faites pas ça, s'il vous plaît.
Non, ouais, pour le coup, je sais pas ce qu'ils pourront faire. Comment aller plus loin dans un 3, quoi. C'est ça le truc. En tout cas, c'est.
Quand t'incarneras JJ, tu devras aller tuer Ellie.
Oh là là.
Et Tommy.
C'était très intéressant. Enrichissant, même, je dirais. Mais dur. C'est ça que je tiens. Et aussi cette fin triste où tu te rends compte et Ellie a tout perdu en fait. Et elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. C'est de sa faute. Elle a pris les mauvaises décisions, elle a fait les mauvais choix pour rien. Et elle finit toute seule. Et même la guitare, qui est le dernier truc qui la reliait physiquement à Joël, même ça, elle peut plus le faire. Et bah d'ailleurs, le fait elle part en laissant la guitare, donc elle a vraiment plus rien, et ça c'est super dur.
Et comme Traz l'a évoqué, ça fait une boucle parfaite avec le début du jeu, qui commence sur un plan de la même guitare avec la frette des Fireflies.
Et Thomas, du coup,
Moi je l'ai déjà dit pendant le podcast, vraiment ce que au-delà de tout ce qu'a dit Romain, que je rejoins complètement, ce qui m'a bluffé, c'est qu'un jeu de cette ampleur, de ce budget, de cette importance capitale pour Sony, est pris autant de risques sur à peu près tous les plans, mais surtout sur le plan narratif, de par la mort de Joel au début, le message qui te fait réaliser que cette héroïne n'en est vraiment pas une. C'est ça qui me bluffe le plus, c'est d'avoir eu cette liberté. Alors je sais pas si c'est une liberté complète, s'ils ont dû batailler énormément pour pouvoir imposer leur point de vue. Enfin, il paraît que quand c'est Naughty Dog, Yoshida, quand il décidait à l'époque leur donner carte blanche pour faire à peu près ce qu'il voulait, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas si c'est le cas, je trouve que c'est tellement intelligent et tellement couillu d'avoir laissé un projet de cette ampleur là prendre autant de liberté avec tout, parce que c'est ce qui fait qu'il est grandiose et qui va marquer mais tellement longtemps. Enfin, on en a parlé avec Trace ces derniers jours, tu le vois, il y a des étoiles qui brillent dans ses yeux, il y a une galaxie à l'intérieur.
Mais Trace, c'est ça avec tous les jeux Naughty Dog.
Ouais, mais je veux dire, on en parle entre nous, c'est un jeu qui a marqué tout le monde pour tout un tas de raisons, et c'est franchement pas si souvent que ça. Et s'il avait été plus charté, s'il avait dû remplir plus de cases de passage obligé,
Uncharté,
ça aurait été un jeu beaucoup moins marquant, parce qu'il aurait été bien plus convenu et donc moins surprenant sur tout un tas de paramètres. Et moi, c'est ce que je vais en retenir, c'est qu'on peut prendre des risques avec un triple voire presque quadruple A tellement il est énorme, et je trouve ça fantastique et plein d'espoir pour le jeu vidéo dans sa globalité, même si j'imagine bien que ça ne va pas se reproduire de sitôt.
Bah, il ouvre une nouvelle catégorie de super production où jusqu'à présent les triple A massifs c'était du blockbuster d'action globalement, et là maintenant on arrive à
je trouve que Red Dead
ouais, c'est vrai.
Red Dead a quand même pour moi était du côté du jeu d'auteur.
J'ai dit globalement.
Ouais.
Globalement, parce que là encore, Red Dead, c'est comme The Last of Us, c'est presque du quadruple A. Mm. Mais là, ça te montre que maintenant, tu peux aborder certaines thématiques et montrer certaines choses dans autre chose que dans des jeux indés super artsy, très conceptuels, etc. Tu peux
et donc très clivant de base, ouais, où les gens ne vont pas forcément s'y intéresser.
Là, tu peux faire une super production avec de grosses ambitions commerciales, mais qui évoque des thématiques très spécifiques et qui montre des choses très, très dures. Il est tellement à... Enfin, en termes de timing, et c'est presque involontaire, mais il tombe à un moment de notre histoire, on va dire, où c'est particulièrement percutant d'avoir un jeu comme ça qui sort. Et là où t'as des éditeurs qui veulent s'éloigner le plus possible de la politique et ne pas prendre le moindre risque, etc., pour froisser personne.
Ou alors, quand ils mettent la politique en avant, parfois c'est un peu à outrance et ouais, c'est même très maladroit.
C'est un jeu politique, mais qui te le met pas sous le nez, qui l'utilise pas comme argument marketing, en fait. Là, l'argument marketing, c'est découvrir la suite des aventures de Ellie dans le monde de The Last of Us. Tous les messages politiques qui sont transmis pas que politique d'ailleurs, aussi philosophique et sociologique, etc. C'est en second plan. C'est très marqué, c'est très visible, mais ça reste en second plan dans la communication globale et tout ça autour de The Last of Us. Donc c'est très malin, c'est très audacieux, et même si j'ai morflé, je trouve que ça c'est très bien d'avoir des jeux comme ça.
Ok.
Et toi, Plumo?
Moi, ce que j'en retiens, j'ai pris une grosse tarte en fait pour pouvoir encore être sûr de ce que j'ai vraiment retenu du jeu. Je pense que ça va être un de mes jeux préférés de tous les temps, mais j'arrive pas encore à situer à quel niveau, sachant qu'il y a Red Dead et God of War et Final Fantasy VI dans mes trois premiers. Je sais pas encore, parce que vraiment tout ce que j'ai en fait, j'ai eu l'impression d'emmagasiner toutes les émotions que j'ai pu ressentir dans ma vie dans un seul jeu.
En condensé, du coup.
En condensé, voilà, exactement. J'avais l'impression que j'ai passé 27 heures à avoir le film d'une vie qui passe comme ça, à vraiment ressentir tout ce qui était possible de ressentir avec un jeu vidéo. Et je me demande maintenant quel jeu va réussir à me faire ressentir des choses aussi nettement que celui-là. Est-ce qu'il y en a un qui va réussir à atteindre ce niveau d'excellence partout ? Parce que pour moi, vraiment, j'ai aucun défaut à lui trouver. J'ai beau... là, je suis en train de le refaire. Voilà, j'ai beau fouiller à chaque fois, me dire « qu'est-ce que je pourrais trouver ?» Le 1, j'avais plein de trucs à reprocher. Mais plein. Mais à chaque fois, c'était des choix de conscients, de design, que eux avaient mis en place, que là, ils ont réussi à virer. Là je j'arrive pas à trouver, quoi.
Il y a des PNJ un peu par moment,
mais j'ai même pas eu de soucis avec ça. Après, je les ai pas non plus poussés dans leur au fond de leur connerie, mais j'ai pas eu de problème dans la façon dont je joue. J'ai jamais ressenti aucun problème comme ça. Donc non, ce que je retiens vraiment, ouais, c'est un jeu qui a quasiment tout réussi, tout simplement.
Et qui en plus te fout un cafard monumental quand on voit le bout.
Ouais. Ouais. C'est pour ça que tu dis, et il vient se placer dans ta liste de tes jeux préférés de tous les temps. Mais moi, je crois que j'arriverai pas à le mettre dedans.
Trop dur. Trop...
Même si j'ai beaucoup apprécié, je l'ai trouvé super intéressant, etc. Il y a des séquences qui étaient vraiment trop désagréables à vivre, en fait. Pour.
Et encore, j'ai été hyper étonné qu'on t'épargne le bras de Aya qui saute,
qui se fait découper.
Ouais. En plus, tu l'as déjà vécu à la première personne dans la première saison de The Walking Dead. C'était une scène absolument ignoble. Là, tu vois
Oh bah, tu l'as vécu plusieurs fois dans The Walking Dead, hein. T'avais aussi quand tu coupes la jambe du gamin.
Oui, mais quand c'est Lee qui se coupe l'avant-bras, ah là oui. En plus c'est toi-même, tu le vois de là où t'es, quoi, de ton propre point de vue. Et je me disais, ah putain, ça va recommencer, je l'ai déjà vu, j'ai pas envie de revoir ça. Et le plus surprenant, c'est qu'on t'épargne cette scène. J'ai pas compris.
Mais qu'est-ce qu'elle aurait apporté? Voilà, la question oui. que tu poses.
Un élément de plus,
c'est bon. c'est là où l'équilibre est bien trouvé, c'est parce que tu morfles là où il faut morfler et il tombe jamais dans le surplus gratuit de gore et de violence, alors qu'ils auraient très bien fait.
Il faut dire que quelques je sais plus si c'est quelques minutes avant, t'as vu des tripes à l'air, je crois. Par Descartes, mais...
Les bruits, rien que les bruits, quand ils se prennent quand tu égorges les mecs en furtif, tout ça, c'est pas marrant, quoi. Et donc, tu vois, c'est pour ça que...
Comme dans la vraie vie.
Si ça dépend de... Tu peux faire deux listes, tu vois, tes jeux préférés où t'as vraiment... où tu t'es vraiment éclaté, et les jeux préférés au sens où t'as soit appris quelque chose, ou ça t'a apporté quelque chose intellectuellement, et trucs comme ça, là, oui, il pourrait clairement être dans la liste. Mais en termes de fun et de plaisir pur, c'était pas du tout ça. Et je crois qu'il cherchait pas à procurer du fun, de toute façon. Hein. Mais...
Tout dépend par quoi t'entends le fun, finalement.
Ah, bah si ton truc, c'est dégorger des gens, oui, c'est...
Non, mais de vivre autant d'émotions, c'est particulier.
C'est un divertissement, mine de rien.
Il y a des gens qui adorent le cinéma dramatique et des choses
Ah oui, je vis avec une femme qui adore les séries policières et les trucs où il y a des meurtres tout le temps. Bon, j'ai un peu plus de mal avec ça, mais...
Montre-lui le jeu, tu veux lui montrer?
Non. Non, je pense que parce qu'elle aime pas, finalement elle aime pas trop le sang. Donc voilà, elle aime bien les histoires de meurtre, mais quand ça commence à y avoir des trucs coupés, non, c'est pas son truc.
Mais tu sais que ma femme se moquait pas de moi, mais elle s'amusait du fait qu'elle a remarqué que j'avais besoin d'extérioriser par moment. Tu sais, des fois le lendemain, quand au réveil, etc.
J'avais
besoin de lui raconter ce que j'avais fait dans le jeu et ce qui s'y passait, etc. Et quand on en a parlé avec d'autres personnes, elle disait non
psy express au réveil.
Non. Bah, pour tout vous dire, on en parlait avec mon cousin qui est en train d'y jouer aussi. Et elle rigolait avec lui. Elle disait, bah, je sentais que Romain avait besoin d'en parler par moment. Il venait me voir. Il me racontait, ça avait pas l'air marrant, etc. non, c'est pas marrant du tout, quoi. Et donc c'est rare de ressentir ça dans un jeu, quoi. Bah surtout après, pour un fan de comédie et de choses un peu amusantes,
plus légères.
Après oui, le divertissement a un éventail très très large, et le fait de ressentir ses émotions négatives aussi peut faire partie du divertissement. Et j'avoue que bah là, ça a marché sur moi en tout cas. Donc bon, bref,
chapeau.
Ah oui, gros coup de chapeau à Naughty Dog. C'est le feu, comme on dit. Voilà.
C'est le feu, les frérots. Le premier, avec la version remastered, a atteint les 20 millions d'exemplaires vendus, je pense.
En cumulant les deux ?
En cumulant les deux, ouais. PS3, PS4. Reste à voir maintenant si, vu le contexte actuel, je trouve qu'il est encore plus politique et encore plus marquant que le premier. Hein. Il joue pas, les deux jeux jouent pas vraiment dans la même catégorie à ce niveau-là. Ou finalement, le premier fait beaucoup plus jeux vidéo que le deuxième.
Mais fallait installer un univers aussi, mine de rien. Le 2 fonctionne à ce point-là parce qu'on a déjà eu un attachement très fort à ces personnages.
Et c'est aussi rare d'avoir une suite qui est tellement différente et tellement surprenante par rapport au premier épisode. Mais donc je serais curieux de voir justement s'il va aller aussi haut que le premier en termes de vente, parce que même si nous là on est unanime, il y a quand même des gens, y compris chez des gens qui y ont joué, qui n'ont pas apprécié pour différentes raisons. Et donc ce bouche à oreille dans un sens comme dans l'autre, il peut jouer aussi.
Mais après, je crois qu'on a suffisamment étoffé nos points de vue,
qu'on a
suffisamment parlé durant ce spoilcast.
Là, il y a un lecteur qui est en pleurs parce qu'il ne voulait pas apprendre tout ça.
Parce que tu sais, en plus, sa souris s'est pétée, donc il n'arrive pas à cliquer pour couper le son. Tu sais.
Donc, je pense qu'on a suffisamment expliqué nos points de vue à ce sujet. En tout cas, la rédaction de Gameblog, on est à peu près, je crois, tous conquis. Il n'y a plus que Rami qui n'a pas terminé de son côté. Poufy, que vous ne voyez pas, évidemment, l'a terminé aussi.
Je sais que moi, j'ai parlé brièvement avec Massim Gerassi de S1, ce cher Dino Crisis.
C'est vrai, chez Bethesda.
Chez Bethesda. Lui était moins emballé par l'histoire. Il trouvait qu'elle était un peu... Il y a des trucs qu'il avait un peu vu venir de loin. Et il a trouvé que c'était pas super bien écrit. Tu vois, comme quoi, il y a de tout. On captait mal, donc j'ai pas pu parler longuement avec lui pour savoir exactement ce qu'il pensait, mais globalement il avait l'air un peu un peu déçu.
Maxime,
si tu nous regardes, bouffer un midi et puis on en parlera.
Bah, exactement. Ensemble. Tu reviendras dans un podcast nous faire une de tes prédictions magiques, Maxime. Ça nous fera le plus grand plaisir. On a fait le tour. Voilà, The Last of Us Part 2. Maintenant, on va refermer le livre jusqu'à The Last of Us Part 3, j'imagine.
Ouais ou pas.
Est-ce
ou
qu'on en a besoin?
De
d'un Last of Us Part 3.
Mais on n'avait pas besoin du 2 au départ. Hein.
C'est vrai, la fin du 1 était très bien.
La fin du premier suffisait à elle-même.
Un peu quand même, parce que ça t'ouvrait sur la réaction, sur la... Tu disais, tu imaginais la potentielle découverte de la vérité par Ellie et sur l'impact que
oui, mais
ça
tu pouvais
pourrait,
l'imaginer.
Ça, pourrait avoir. Oui.
Ça m'aurait pas gêné. Enfin, maintenant, ça me gêne parce que je sais ce que j'aurais loupé, mais en soi, on m'aurait dit que l'histoire s'arrêtait là, pas de problème.
Bah là, je pense que Romain a raison. On n'a peut-être pas besoin d'un 3.
Ah non, mais je suis d'accord.
En tout cas, pas tout de suite.
Non.
Ah, mais et certainement pas tout de suite.
Mais en tout cas, vu la qualité du 2 et la qualité de la production de Naughty Dog d'une manière générale, je pense que s'ils se lancent. Parce qu'ils ont l'air d'avoir suffisamment d'indépendance pour ne pas subir des pressions de la maison
de
mère qui va dire non, là, ça a cartonné, il nous en faut absolument un autre. Donc même si je pense que ce genre de message ils le recevront, ouais, sur PS5 un nouveau Last of Us ça serait quand même chouette. Je pense vraiment que l'équipe menée par Neil Druckmann, s'ils font un 3, c'est qu'ils ont vraiment trouvé une super idée. Par contre, maintenant, le chemin pour faire encore plus intéressant et encore plus peut-être pas plus intéressant, mais au moins aussi intéressant avec autant de surprises.
Et
ça
en
va être,
respectant
ça va être compliqué.
Peut-être un peu plus le droit du travail.
Ah oui, alors ça c'est
bah, si c'est un standalone comme ils ont fait avec Uncharted, peut-être qu'il y aura moins de monde dessus. Ils pourraient peut-être faire quelque chose.
Le standalone JJ.
Parce que les DLC visiblement c'est cuit. Donc un petit standalone.
Mais c'est très bien. Il y a pas besoin de plus. Hein.
La mécanique des cordes. Des tuyaux, etc. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, oh, j'ai pensé au crunch. Je me suis dit, les pauvres mecs qui ont dû faire ce truc-là pour que ça fonctionne.
Ça, et l'image du jour de Poufy avec les 25 détails que vous avez loupés, là où t'as un nombre de trucs dans ce style-là absolument incroyable, à côté desquels tu peux complètement passer véritablement parce qu'il faut prendre son temps et observer un peu ce qui se passe. C'est ma boule, et j'ai envie de dire, s'il faut vraiment faire souffrir des gens pour arriver à ce résultat-là, bah, il va peut-être falloir arrêter en fait. Et voir peut-être un tout petit peu moins grand à l'avenir.
Bon, vous voyez, on n'arrive pas à faire
ce que disait Sean Layden.
Pose mon micro.
Et The Last of Us Part 3, JJ à l'école maternelle. La vie à l'école primaire dans un monde post-apocalyptique avec des monstres.
Pourquoi pas.
Si c'est bien écrit, je prends.
Ok, bon. Eh ben écoutez, merci. Merci Romain, merci Thomas, merci Poufy pour ce spoilcast d'un genre nouveau. Voilà, vous.
On avait besoin de.
Voilà, on avait besoin d'extérioriser un petit peu.
Vous en faites ce que vous voulez.
D'ailleurs, je vais peut-être m'allonger un peu. Voilà, parce que bon.
C'est le patient qui s'allonge ou c'est le thérapeute?
Non, c'est le patient, c'est okay. Le patient. Là, je crois qu'il faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça.
Bah, et le fait qu'on ait besoin d'en parler pendant si longtemps, ça prouve aussi quelque chose. Tous les jeux nécessitent pas une longue discussion comme ça.
Ouais, d'ailleurs, on vous invite évidemment à discuter aussi. Hein. Dans les commentaires.
Mais avec courtoisie.
Mais peut-être pas dans les commentaires. Allez plutôt sur le Discord. On a créé un channel spécial pour The Last of Us Part 2, pour les spoils. Allez-y, discutez là-bas calmement, tranquillement. Peut-être pas dans les commentaires en dessous. Quoique après, ça sera réservé.
Ah, c'est écrit spoil dans le
titre.
Voilà,
ça sera réservé au spoiler aussi.
J'ai envie de dire.
Ouais, bon, comme ça part souvent en cacahuète dans les forums. Voilà.
Quoi, les gens s'énervent facilement sur Internet.
Essayez d'avoir un peu de recul. Pensez un peu au jeu. Pensez un petit peu à
la vie.
À la fin, à
ce qui est important.
S'est passé. Voilà, ce qui est vraiment important, et ensuite on verra.
Dites à vos proches que vous les aimez.
Aussi, voilà, par exemple. Et puis, bah, nous, on vous dit rendez-vous prochainement pour un autre podcast. On ne sait pas encore quand. Voilà. Peut-être à la rentrée, peut-être qu'avant, on vous filera autre chose. On ne sait pas encore. Il y a des vacances qui doivent se passer. Je ne sais pas si vous savez, mais ces derniers mois, c'était un peu compliqué d'être en vacances. Donc maintenant, on va essayer d'en profiter, nous aussi. Vu que vous faites rien, forcément.
On va le laisser parce que je pense qu'il a besoin de parler aux gens un petit peu. Là.
Non, parce que tu vois le moment où Joël. Bref.
Là, il est à deux doigts de sortir la guitare et de vous jouer un morceau. Hein.
Écoute, j'ai réussi à jouer la poupée qui fait non, le début de la poupée qui fait non avec Ellie. Donc je suis très content. Mais je sais le faire en vrai.
C'est très spécifique comme choix.
Bah, parce qu'en fait, c'est le seul accord que je connais dans ma vie. Donc c'est pour ça. Je les ai reconnus tout de suite. Bon, merci à vous de nous avoir écoutés.
Michel Plumnareff.
Bah, bien sûr.
Pas mal.
Merci à vous de nous avoir évidemment écoutés ou regardés sur Gameblog. On se retrouve donc bientôt. L'actualité, elle continue tout l'été, évidemment, sur Gameblog. À très bientôt. Ciao.
Bisous.